Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et solopreneurs. Pouah, après des mois et des mois de pause, ça y est, je suis de retour avec de nouveaux invités et de nouvelles questions croustillantes. Et on se retrouve aujourd'hui avec Flavie Prévost. Flavie, c'est une ancienne dirigeante d'un grand compte. Son quotidien, eh bien, c'était de manager des centaines d'équipes en France. Alors forcément, quand on passe d'un comité de direction à son salon, eh bien, le quotidien n'est plus du tout le même et c'est précisément ça qui m'intéresse. Manager des gens, c'est pas toujours une compétence qui est recherchée par des clients. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver son expertise et son positionnement quand on a passé des années loin de l'opérationnel? Aujourd'hui, Flavie est ce qu'on appelle Fractional Head of Sales. En deux mots, elle pilote la partie commerciale d'une boîte quelques jours par mois. Ensemble, on a parlé de son lancement pendant son deuxième congé maternité et de comment elle s'y est prise, histoire de pimenter les choses. Comment elle a aussi trouvé son monopole personnel pour se différencier et bien de tous les commerciaux en freelance. J'ai aussi questionné sur son business model et la manière dont elle package ses offres, avec notamment des pricing fixes plus variables. On a aussi parlé de son média, le board et particulièrement son podcast avec un concept bien à elle, un format de série audio. Et puis, dernier sujet pépite, elle s'est très tôt positionnée sur le Web3. Je l'ai donc mis au défi. Si elle était associée de Tribu Indé, quelles sont les initiatives qu'elle mettrait en place côté communautaire? Et vous allez l'entendre, ses recos sont hyper intéressantes. À la fin de l'épisode, on vous a même réservé une petite surprise, c'est une première dans l'histoire de Tribu Indé, alors restez jusqu'au bout, et sans plus tarder, je vous laisse avec notre échange. Salut Flavie.
Salut Alexis.
Ravi de te retrouver pour deux choses. Déjà la première, c'est que je te le disais juste avant qu'on enregistre, alors je sais pas quand est-ce que sortira l'épisode, mais tu es la première avec qui je reprends enfin les conversations / interviews sur le podcast Tribu Indé. Donc je te disais, c'est un peu, j'espère que j'ai pas perdu la main, ce sera aux auditeurs de décider de ça, mais en tout cas je suis hyper content. C'est vrai que j'avais un petit peu perdu, pour les auditeurs qui suivaient le podcast depuis un petit moment, j'avais un peu perdu la motivation, puis voilà, j'étais passé sur d'autres sujets, et puis début 2023, j'ai eu envie de rencontrer une nouvelle personne, de repartir sur les chemins du soloprenariat, de l'aventure freelance. Donc je suis ravi de t'avoir. En plus, ça fait un petit moment qu'on essayait de savoir, d'échanger. Donc voilà, doublement ravi de t'accueillir sur le podcast Tribu Indé, parce qu'il y a pas mal d'angles hyper intéressants que j'ai envie d'aborder avec toi. Peut-être le premier, je me suis noté ça sur mes notes de mon côté, parce que tu as été une ancienne dirigeante d'un grand compte, siégé au comité de direction, et globalement tu passes d'un comité de direction où tu gères, tu vas nous en parler, mais tu gérais des centaines de personnes, à ton salon, qui est sûrement très sympa aussi, mais si tu veux c'est pas la même échelle. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter, juste pour qu'on pose un peu le contexte, de mémoire, toi tu t'es lancé 2021, et pendant quasiment 6-7 ans avant, t'avais pas du tout la même carrière et la même vie professionnelle.
Bah écoute, déjà pour la petite dédicace, sache que je pense que t'es un des premiers podcasts sur le monde des freelances que j'ai écouté quand j'étais en train de me reconvertir, quand je commençais à freelancer en side et tout ça, parce que, enfin en tout cas des freelances, des podcasts franco-français quoi, donc c'était cool de t'écouter et c'est cool de passer dans le podcast aujourd'hui. Je sais plus à quelle occasion j'ai trouvé ça, parce que quelqu'un m'a dit, ouais, pour LinkedIn, tu vois, pour ton profil, faut un peu storyteller. Moi, je suis assez mal à l'aise avec le storytelling. Mais bon, un jour, j'ai trouvé cette phrase, genre, je suis une ex-dirigeante en grand groupe qui a mal tourné. Et en fait, je dis ça parce que à l'époque, quand j'ai commencé à travailler, c'était, moi, il y a 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Le rêve d'une vie, c'était de devenir PDG, tu vois. C'était de... avant même d'être start-upper. Ensuite, c'est devenu être start-upper. Et à l'époque, le freelancing n'existait pas ou n'avait pas bonne presse. Et heureusement, depuis, ça s'est beaucoup libéralisé. Et maintenant, quand je dis que je suis passée d'un comex, d'un grand groupe à freelance, les gens me regardent pas mal. Ils sont même super curieux. Et en fait, ça, je vois dans leurs yeux qu'il y a une petite étincelle qui s'allume des fois et qui se disent « Ah ouais, pourquoi pas moi ?» et tout. Donc voilà, c'est une exploration possible du monde du travail, un chemin de traverse, mais qui est plus si bizarre. Donc voilà, moi en tout cas, c'est ce que j'ai opéré. J'y suis allée tranquillement. Évidemment, le Covid, ça a été un déclencheur, parce qu'en gros, ma vie d'avant, c'était des déplacements partout en France, en Europe, des avions, des trains, des comités de direction, des meetings. J'avais jamais le temps trop de me poser et de réfléchir. J'avais un métier quand même passionnant. En plus, tu vois, j'en souffrais pas. Et là, quand il y a eu le Covid et que je me suis retrouvée, pour le coup, dans mon salon à faire tout en visioconférence pendant 8, 9 heures, 10 heures par jour, et à remettre un peu en question plein de choses, là, j'ai commencé à lancer mon podcast. Et là, ça m'a ouvert la voie de l'entrepreneuriat. J'ai commencé à explorer et je me suis dit, ah tiens, c'est possible, cette vie de solopreneur est possible. Et du coup, ça m'a vraiment titillé pour le côté exploration, aventure dont vous êtes le héros et tout. Donc, j'ai adoré. J'ai commencé par le podcast. Et puis après, quand je me suis senti le courage, je me suis lancée.
Je note la petite ref. Très cool. Parce que ouais, effectivement, toi tu gérais, tu me disais quand on avait préparé l'épisode, tu gérais quoi? À peu près, il y avait 600 collaborateurs en gros dans la hiérarchie en dessous de toi, répartis un peu partout en France et en Europe ou juste en France d'ailleurs?
Alors en France, après au niveau Europe, je collaborais pas mal avec tous les autres pays européens et US, mais c'était pas sous ma direction, voilà. Donc, mais si tu veux, c'est vrai que c'était une vie, déjà quand t'es manager, en fait en gros quand tu montes les échelons dans un grand groupe, bah, ou dans une entreprise quoi, souvent tu te retrouves vite en position managériale. Et donc moi assez vite je me suis trouvée manager, d'abord directrice du centre de profit, ensuite directrice de région, puis directrice pays, donc ça c'était ma dernière expérience. Et à ce moment-là, s'enclenche une espèce de routine intéressante, mais très prenante, où en fait, tu passes ta vie à manager les gens en point de performance, en réunion d'équipe, en réunion trimestrielle, en présentation des résultats, en stratégie annuelle, en budget. Et du coup, ça va vite, très vite. Tu n'as plus le temps de réfléchir. Et surtout, quand tu deviens manager, ben, finalement, tu fais quasiment plus que ça. Tu n'as plus trop de place pour les missions créatives, tu n'as plus trop de place pour faire toi-même des projets. Je vais dire, tu passes 99% de ton temps à manager les autres, en collatéral, au-dessus, en dessous, à devenir aussi le visage de l'entreprise, de la stratégie et tout. Donc forcément, un des trucs que j'apprécie dans le fait de redevenir un petit peu plus artisan en devenant freelance, solopreneur, bah, c'est que tu redécouvres un peu plus de place pour faire des missions créatives, par exemple. Et moi, ça a été le podcast qui m'a mis le pied à l'étrier. Et je me suis dit, ah, c'est chouette de réapprendre à tout faire par soi-même, de pouvoir créer ses visuels, de pouvoir créer son identité sonore, tout ça. J'ai trouvé que c'était une super expérience.
Mais c'est intéressant ce que tu dis sur... effectivement, j'ai l'impression que le monde de l'entreprise, de manière générale, il est construit de cette manière-là. C'est-à-dire que si tu as envie d'évoluer, tu joues dans un jeu où, effectivement, en fait, le niveau d'au-dessus, c'est de monter dans la hiérarchie. Et pas nécessairement, tu vois, de devenir finalement un expert de ta compétence et de rester l'expert de tel outil dans l'entreprise. Parce que, en fait, ce qui est valorisé à la fois en interne, mais aussi en externe, généralement, je sais pas, tu vois, tu vas prendre une bière avec des potes, les job titles, les titres, manager, head of, etc., fait toujours plus vendre que de dire je suis expert sur tel techno, sur l'IA, etc. Et du coup, j'ai l'impression que ça, tu vois, à terme, quand tu fais 10, 15, 20 ans en tant que manager, tu peux avoir cette peur justement d'être un peu coincé et d'avoir cette double peur que tu te lances. Déjà que c'est difficile de quitter potentiellement une hiérarchie, un système qui est quand même bien pensé dans une entreprise, même si y a plein de désavantages, c'est quand même bien structuré généralement. Tu as souvent cette peur de dire « Ok, mais qu'est-ce que je fais quoi ?» Et moi, je le vois, tu vois, dans les personnes que je peux accompagner, il y a pas mal de personnes qui ont un peu le même profil que toi, c'est-à-dire j'ai été manager, j'ai quasiment été au plus haut possible dans la hiérarchie de ce que je pouvais aller. Je me lance, sauf que moi, j'ai passé mon temps à manager, quoi. Et donc, en termes d'expertise métier pure, en fait ça fait longtemps que j'ai pas été sur le terrain. J'ai plutôt managé que ça soit des agences, des gens en interne, copiloté des équipes, des partenariats, etc. Mais moi j'ai assez peu mis les mains dans le cambouis quoi.
Alors ça c'est une des grosses difficultés auxquelles moi j'ai fait face quand je me suis lancée. Parce que bon, en gros, j'ai testé en side une mission de directrice commerciale externalisée pour une scale-up. Donc ça allait, c'était recruter des nouvelles personnes, les manager, mettre en place le dispositif. Mais bon, je me suis assez vite rendu compte, si je devais faire ça régulièrement, que les clients qui embauchent des freelances, ils n'ont pas 600 équipes à manager. Donc toutes mes compétences de manager d'avant, je me suis dit « Ok, ça ne sert plus à rien, entre guillemets, en tant que freelance. Mince, qu'est-ce que je vais faire ?» Deuxième problème, j'ai un profil plutôt généraliste. Donc quand tu es généraliste pour freelancer, ce n'est pas facile, parce que souvent, il vaut mieux avoir un truc d'hyper niche, parce que c'est là que tu es rare et tout. Donc pareil, je me suis dit comment je vais faire parce que la vente au sens large est un peu trop large. Et puis après, il y a le côté faiseur ou superviseur. Alors moi, heureusement, j'avais de la chance que j'ai toujours eu un profil un peu bidouilleur et j'ai toujours voulu tester les trucs. Tu vois, quand TikTok est sorti, j'ai dit vas-y, on fait des vidéos TikTok pour former les équipes sur le terrain, ça va être sympa. Donc j'ai toujours mis un peu les mains dans le cambouis. Et ce que j'ai fait en fait pour me lancer, qui m'a facilité la vie, c'est que au départ, j'avais un projet de start-up Donc, je suis allée dans un incubateur. Et dans l'incubateur, j'ai appris puissance 10 de façon hyper rapide, tous les trucs qu'il me fallait pour basculer du grand groupe à l'entrepreneuriat. En gros, le no-code, faire soi-même des trucs avec ses 10 doigts, genre créer une landing page, créer un typeform, tous ces trucs-là. Et bien sûr, le côté pivot, quoi, c'est-à-dire c'est pas la peine de réfléchir pendant 100 000 ans à ton idée, rien ne va se passer comme prévu, il y aura toujours des choses qui vont perturber ton business plan. Donc en fait, d'abord lance-toi et améliore le truc en même temps que tu sautes de l'avion, tu ouvriras le parachute en sautant, quoi. Et donc si tu veux, ces compétences-là, elles ont été clés parce que je me suis dit, écoute, bon, si ça peut marcher avec un client, je me lance et on verra bien. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté plusieurs missions de clients, plusieurs domaines de clients différents, plusieurs sphères, etc. Un coup dans l'industrie, un coup dans le retail, différents types d'entreprises, PME, scale-up, indépendants. Et en fait, plus je faisais les missions, plus je me rendais compte des choses où j'étais bien ou pas, où ça performait ou non, où j'aimais bien le feeling avec la personne ou pas, est-ce que c'était des bons prix ou non, tu vois. Et je dirais que c'est ce portefeuille de mini-missions clients, plus ou moins réussies les unes après les autres, qui m'a permis de commencer à voir où est-ce que je pouvais en fait avoir un impact. Et autant avant, j'aurais pensé que c'était genre diriger des grandes équipes commerciales, et je me suis rendu compte que finalement, j'arrivais aussi à faire des choses très pratico-pratiques sur les entreprises. Et donc, un exemple de transformation que je pense qu'il faut faire, tu vois, c'est passer du côté stratégie au côté opérationnel. Et donc, moi, je me suis dit, si je vends que de la stratégie, je ne pourrais pas travailler tous les jours de la semaine parce qu'en fait, les gens, ils ont aussi besoin de personnes qui les aident à faire concrètement, surtout les startups qui veulent aller vite. Et donc, au lieu de faire de la stratégie de vente grand compte, je me suis rendu compte qu'en ma qualité d'ancien membre de CODIR, je savais bien prospecter les dirigeants de grands groupes. Parce qu'en fait, je parlais le même langage qu'eux. J'enlevais ma casquette, je remettais les codes de l'entreprise d'avant que je maîtrisais bien. Et donc, un des sous-produits auxquels je n'aurais pas pensé de mon expertise d'avant, c'est que bah, moi, je peux aider des startups qui se lancent à conquérir 1, 2, 3 clients grands comptes en allant directement targeter le comité de direction. Là où peut-être un business développeur de 22 ans qui n'a pas les codes, il va envoyer un message automatisé et ça va tomber à côté. Et tu vois, ça, je ne m'en serais pas rendu compte. Il a fallu que je le fasse, que je me rende compte que seul moi savais le faire et pas d'autres personnes. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, là, j'ai un angle, je peux tester. Ensuite, j'ai mis ça sur mon profil Malte. Et du coup, ça m'a amené des leads. Et voilà en fait comment j'ai itéré, vraiment d'abord par l'expérience et après j'ai théorisé.
Ok, super intéressant. Tu nous donnes pas mal de matière là sur lesquelles je vais rebondir là dans les prochaines minutes. Peut-être le truc sur lequel j'ai envie de rebondir là en priorité, c'est ce que tu m'as dit sur la fin, d'avoir les codes sur le marché, sur les cibles que tu as. Je trouve que c'est un truc hyper intéressant parce que parfois, tu as envie d'aller sur un marché, par exemple, je sais pas, en ce moment, le grand truc, alors bien sûr, il y a l'IA, etc., mais le grand truc aussi, je le vois depuis un an et demi, c'est les boîtes à impact. Tout le monde veut aller sur les boîtes à impact, freelance à impact, etc. Il y a ce côté-là. Et de l'autre côté, qui moi, suis entre, si tu veux, j'ai un pied un peu dans le monde de l'infoprenariat et puis un pied où je reste plutôt dans le monde startup, SaaS tech, côté prestation. Je vois beaucoup de, notamment de copywriters, de rédacteurs qui sont plutôt sur les milieux infoprenariat, vouloir aller côté startup B2B parce qu'on leur a dit, en fait, c'est là-bas qu'il y a de l'argent, c'est pas forcément côté infopreneur. Mmh. Et donc, le problème, c'est que ces gens-là galèrent parce qu'ils n'ont aucun code. C'est-à-dire qu'ils vont parler de funnels très complexes, de pages de vente, etc., qui sont des sujets, des codes, qui est un langage qui n'existe pas du tout dans le milieu startup B2B. Pardon. Et donc, c'est intéressant de voir aussi que finalement, au-delà des compétences qu'on peut avoir d'un point de vue vraiment expertise métier, etc., eh bien, il y a tout l'à côté qui est difficilement palpable, mais de se dire, ok, est-ce que je suis en mesure, est-ce que je comprends le marché dans lequel je suis, est-ce que je comprends les acteurs, est-ce que je comprends les codes des clients de mes clients, par exemple. Et dans ton cas, effectivement, c'est là où potentiellement tu as aussi un point de différenciation par rapport à des biz devs qui ont peut-être 5-6 ans d'expérience, mais qui ont moins de 30 ans et qui ont peut-être... qui ont toujours été sur des cibles, des comptables, des experts comptables, des cibles plus opérationnelles. Toi, tu arrives avec la casquette, ok, en fait, sur des ventes long terme, sur des cycles de vente longs, pour aller chercher du grand compte, du CAC, du CODIR, bah en fait, c'est là où je tire ma carte du jeu parce que, un, j'ai le réseau potentiellement, 2, j'ai les codes. 3, je sais comment les approcher. Et 4, je sais avoir rapidement le discours parce que j'ai fait ça pendant des années avant, quoi. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant.
Mais ceci dit, ce que tu dis, c'est intéressant. C'est que moi, quand je suis arrivée sur Malte, en gros, tu sais, le truc basique de quand tu commences, quoi, je me suis retrouvée en concurrence qu'avec des biz dev à 400 euros par jour. Sauf que moi, alors aussi, on va en reparler, mais spécificité de se lancer un peu sur le tard en freelance, d'être déjà senior ou dirigeant, c'est que contrairement au paysage majoritaire des freelances, moi, je gagnais mieux ma vie en salarié qu'en freelance. Parce que je gagnais plus de 150 000 euros par an. Donc, si tu veux gagner ça en freelance, il faut gagner genre 200 ou 300 000 euros. Donc, ça commence à chiffrer. Ça fait un TJM à 1500 euros par jour, quoi. Donc, au secours. Enfin, tu vois, c'est déjà un gros level de TJM. Donc, voilà, quand tu te retrouves, du coup, tu te dis, je vais faire sales et que tu te retrouves qu'avec des gens en compétition à 400 euros, t'as pas le choix que de te dire, attends, en fait, c'est pas que mes compétences pures qui vont me sauver, genre automation, sales et tout ça. Il faut que je trouve un autre critère. Et là, je pense que ça m'a beaucoup aidé de voir aussi des freelances ou des indés comme toi ou d'autres qui théorisaient, tu sais, le monopole personnel, l'intersection entre plusieurs pans de ta vie, entre ton expérience, ton expertise, ta curiosité. Et là, en combinant les trois, en commençant à oser combiner les trois, je me suis rendu compte qu'il commençait à avoir des cercles intéressants qui se croisaient. Mmh. Et par exemple, un autre cercle intéressant qui s'est croisé, c'est mon intérêt pour le Web 3, mon passé en grand groupe et puis mes compétences sales. Et là, en discutant et en regardant un peu ce marché, je me suis rendu compte qu'en fait, dans le Web 3, c'était cool, il y avait plein d'explorateurs, mais c'est surtout des gens très jeunes qui ne connaissaient pas les comités de direction. Donc, comment expliquer à un grand groupe comment faire pour conduire le changement, pour se lancer dans ces trucs-là quand tu leur fais peur, en fait, quand tu ne comprends pas leur code. Donc là, tu vois, je me suis dit, ma vieille, tu as une carte à jouer dans le Web 3 parce que finalement, tu vas avoir une caution une caution confiance, en fait. Et en fait, tu sauras répondre à des gens qui vont te dire, mais non, le métaverse, ça ne sert à rien, c'est que du monde virtuel, blabla, parce que tu seras passé par là. Donc voilà, au final, je pense que ce qui aide, c'est d'oser assumer qui l'on est, d'où l'on vient et tout ça. Et en fait, au début, je ne l'assumais pas trop. Je voulais faire ma freelance Jones comme tout le monde parce qu'aussi, peut-être qu'il manquait un peu de... dans l'horizon, il y a des rôles modèles plutôt jeunes, plutôt vingtenaires et tout. Et peut-être que moi, il me manquait des rôles modèles freelance un peu plus âgés, genre quand t'es freelance et que t'as des enfants, quand t'es freelance et que t'étais dirigeant avant, tous ces trucs-là. Et maintenant, la parole se libère plus. On se rend compte que le freelance, il n'est pas unique, il est pluriel. Il y a plein d'expériences de freelancing. Et du coup, moi, ça m'a libéré, en fait. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup plus de missions, paradoxalement. Donc, je pense que c'est peut-être ça le côté de quand t'es trop généraliste versus quand tu trouves ta niche. Mais bon, moi, tous les conseils sur trouver sa niche, je ne comprenais pas, en fait, jusqu'à ce que finalement, je me mette à l'intersection de plusieurs centres d'intérêt. Et c'est là que c'est arrivé, quoi.
Et si on fait un tout petit pas en arrière, parce que tu me dis, voilà, moi, je gagnais 150 000 euros, peut-être hors package, etc. Globalement, tu fais partie quand même des personnes qui gagnent le plus en tant que salarié. En tout cas, tu es dans la bonne tranche. Tu vois, tu quittes quand même une position assez confortable d'un point de vue salaire, tu es dans ta zone de confort aussi parce que tu manages depuis déjà des années, donc voilà, tu connais les codes, tu le disais tout à l'heure, tu t'installes aussi peut-être une petite routine. C'est quand même un autre jeu, le freelancing, le soloprenariat, tu es tout seul, tu dois tout faire toute seule, en tout cas au démarrage. Donc tu quittes potentiellement une situation confortable pour aller... vers quelque chose dont tu n'as pas beaucoup de prédictibilité, en tout cas au démarrage. Qu'est-ce qui motive ce choix-là, tu vois, à ce moment-là? Donc là, on est quoi? On est 2021, 2022?
Ouais, 2020 même, je pense, parce que ça a commencé un peu comme ça. Écoute, c'est... Alors déjà, l'avantage de ces carrières-là, il ne faut pas cracher dessus en disant, voilà, on s'ennuie, machin. L'avantage, c'est les réserves financières. Parce que quand tu fais ça et que tu te lances en freelance derrière... T'as quand même, généralement, moi, j'avais acheté mon bien immobilier, j'avais des économies. Enfin, tu vois, je me sentais plus sécure aussi parce que quand tu te lances, c'est pas évident. Quand t'as un train de vie et tout, faut être sûr que tu vas assumer ça. Donc ça, c'était le premier avantage. Après, deuxième avantage, déjà, ensuite, après, il y a des débats sur la retraite, machin, tout ça. Donc là, moi, j'ai 38 ans. Je me dis, mais attends, mais j'ai encore 30 ans à bosser. Donc c'est bon, j'ai le temps. J'ai le temps d'explorer plusieurs modèles, salariat ou pas, entrepreneuriat ou pas, et j'ai le temps de revenir et ça va bien se passer. J'étais pas encore à l'âge trop critique, charnière, où je sais pas, imagine quand t'as 50 ans, tu te dis après je vais plus pouvoir retrouver un CDI. Là je me dis au pire quoi, je me plante, je peux retrouver un CDI, voilà. Et enfin, il y a eu évidemment des combinatoires plus perso, mais je pense qu'on est, elles nous traversent un peu, surtout par les temps qui courent. Covid, enfermement, nanana. Moi, j'ai eu deux enfants, donc j'ai deux bébés de moins de 4 ans. Donc forcément, le côté faire des déplacements tout le temps, faire des comités de direction et tout, bah, c'est moins attrayant. Tu commences à reconsidérer ça parce que voilà, tu as envie d'être un peu avec tes enfants. Et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être l'occasion de partir. Et donc, je suis partie aussi des charrettes de gens qui ont déménagé de Paris à Nantes. Et donc, si tu veux...
Oui, on n'est pas très loin. On est quasiment voisins.
Vie super cool. Mais quand tu es justement dans le présentéisme, dans des grands niveaux de fonction, il faut que tu sois là et tout, c'est pas si facile que ça de partir en remote, de dire, allez, ciao les gars, on se voit sur Zoom. Non, ils attendent quand même de toi que tu sois en présentiel et tout. Et donc, bah voilà, post-Covid, je me voyais plus repartir au bureau, faire des longues heures comme j'ai fait avant et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion. Donc, c'est vrai que dans une balance, il n'y a pas que le financier. Il y a aussi la liberté, l'exploration, ce genre de trucs. Et moi, je me suis dit, allez, je tente pendant un petit moment. Alors attention aussi, un message que je pense que tu passes souvent, il y a des façons de négocier pour bien partir de sa boîte. Donc évidemment, dans les façons de se lancer, moi, j'y suis pas allée all-in direct en mode, oh, ça me saoule, je craque madame. Voilà.
Déjà, je pense toujours à... Excuse-moi de te couper, je pense toujours à la pub, tu sais, du loto et du gars qui arrive en plein codir, ou bref, en réunion, et qui claque, globalement, qui claque sa dev comme ça. Je me doute que t'as peut-être pas fait ça, quoique, je sais pas, est-ce que tu vas nous surprendre ?
Eh bien, alors, déjà, j'ai lancé mon podcast en side. Quand j'étais en plein Covid, j'ai rejoint un incubateur pour me former en parallèle de mes horaires de travail, donc là, ça m'a motivée. Le podcast, je me suis lancée, et je trouve que des fois, lancer un média, c'est une super façon de se lancer, parce qu'un média, tu vois, c'est non invasif, c'est pas souvent considéré comme dangereux par l'employeur. Parce que si j'avais dit à mon employeur, ouais, je fais des missions en freelance, je pense qu'il m'aurait dit, mais comment ça, t'as envie de nous quitter ? Non. Alors que lancer un podcast, écrire une newsletter, commencer à écrire des posts, j'en sais rien, sur l'impact sur LinkedIn, bah c'est OK. Enfin, tu vois, t'as le droit d'avoir une vie, des hobbies, des choses comme ça. Donc ça m'a bien appris. Et mine de rien, toi qui connais le podcast, tu sais combien ça demande de compétences entrepreneuriales. Faut le promouvoir, faut le financer, faut l'organiser. Grâce au podcast, j'ai appris tous les réseaux sociaux, enfin, tu sais, un peu en retard, quoi, genre Instagram, LinkedIn. J'étais pas forcément trop native de ça. Donc voilà, ça m'a bien lancé. Et
j'allais te dire, alors, je trouve que c'est une idée intéressante que j'ai déjà entendue aussi sur le podcast, de se dire, prépare ta transition. Moi, typiquement, j'ai sûrement le biais, parce que je pense qu'avoir fait avoir eu une bonne stratégie qui était d'avoir négocié avec mon employeur pour pouvoir continuer de faire du freelancing au moment où j'ai rejoint cette boîte-là. Et donc, finalement, la transition, alors qu'à l'époque, je n'avais pas prévu de me lancer tout de suite en freelance, etc., ça m'a aidé. L'idée de faire des side projects à côté, c'est encore plus, effectivement, tu le dis très bien et c'est cool, c'est moins engageant, tu n'as pas nécessairement besoin de négocier, d'en parler à ton employeur, etc. Mais à ça, tu vois, la première objection que certains auditeurs et auditrices ont sûrement là en t'écoutant, c'est « Ok, Flavie, c'est cool, mais comment est-ce que moi je trouve une idée ? Sur quoi est-ce que j'ai envie de parler, etc. ?» Est-ce que toi, tu vois, le board, ce podcast-là, tu l'avais déjà imaginé comme un podcast solopreneur où tu voulais l'explorer ça ou pas du tout ?
Pas du tout. Alors c'est ça, je voulais détendre tout le monde parce qu'en fait, au début, comment ça a commencé ? C'est hyper simple. Je me suis dit « Allez, vas-y, bouge-toi, c'est le Covid, machin, t'es dans ton salon, t'as plus tous ces avions à prendre, ces trucs, tu peux au moins mettre une heure de côté chaque jour pour commencer à écrire. » Ou à garder une trace, en fait, un truc qui pourra te suivre même si tu changes d'employeur. Et à l'époque, j'ai ouvert un compte sur Instagram qui s'appelait Workitude, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé que ça comme nom, où je mettais un post par jour où je parlais de leadership. Donc, tu vois, on est très loin du podcast. Après, je me suis dit, tiens, je pourrais faire un podcast comme j'adore ça. Donc, je commence à recevoir un peu plus ou moins des potes ou des gens que je connais. Et c'était des conversations en visioconférence, voilà, et des un peu classiques, format long. Et je me suis dit, ce sera le podcast de tous les dirigeants. Mais ça, c'est impossible. C'était pas assez niché, tu vois. Sauf que la régularité, le fait de me rendre compte que ça me plaisait, qu'il n'y a jamais un jour où j'ai raté une heure, que tous les jours j'ai posté, que toutes les semaines j'ai posté un épisode pendant peut-être un an ou un an et demi sans que ça me rapporte aucun succès, mais que ça me plaisait. Je me suis dit, tiens, il y a un truc, j'apprends énormément, je valide. Et puis petit à petit, le board s'est transformé pour suivre ma propre aventure. Et là, je me suis dit, écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est les solopreneurs parce que c'est ce que je suis en train de devenir. Vas-y, je vais le faire pivoter. J'ai peur que ça intéresse plus personne, mais on va voir. Et évidemment, à partir du moment où j'ai fait pivoter sur ce sujet, c'est là que ça a commencé à avoir du succès parce qu'en fait, c'est devenu moins généraliste. C'est devenu beaucoup plus spécifique, beaucoup plus incarné et tout. Donc, il n'y a pas besoin d'une grande idée pour faire un side. Donc moi j'ai fait d'abord le podcast et après j'ai fait aussi, je me suis mis sur Malte, j'ai ouvert un profil et j'ai attendu de voir ce que ça donnait. Et là j'ai eu des premières propositions de mission. Et une troisième façon de faire un side pour se tester, c'est donner des cours par exemple. C'est le truc tout bête, mais tu vois, quand t'es salarié et tout, bah voilà, ça te fait un peu ton personal branding, ça te met un peu la pression, t'as des étudiants que tu connais pas ou dans une école et tout, tu donnes des cours, ça peut te faire un petit chèque ou pas. Et donc voilà, c'est commencer à multiplier ses sources de revenus. Donc ça, c'était ma première étape, le side, confort, tranquille, sans forcément sortir du bois. Deuxième étape, j'ai profité de mon congé maternité. Alors, je dis pas que c'est une obligation de travailler quand t'es en congé maternité et tout, bien sûr, mais moi, il s'avère que j'étais...
Toi, t'en as profité, ouais.
J'étais un peu à la cool et pour garder un tout petit pied dans le pro, mais sans que ça soit trop prenant, j'ai décidé à ce moment-là, je me rappelle, j'avais mon petit bébé numéro 2 dans les bras. Je me suis dit, tous les jours, je vais créer un post sur LinkedIn. Et en fait, je suis sortie du bois sur LinkedIn et c'était naze au début, mais comme au bout d'un moment, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et ben c'est ça qui a posé les prémices de mon occupation de terrain sur LinkedIn et qui m'a permis de... d'en faire aussi un adjuvant pour mon business et tout ça. Et tu vois, donc en gros, voilà. Et seulement après ça, j'ai négocié mon départ en disant, voilà, bon, bah du coup, post-congé maternité, c'était plus facile aussi, tu vois, qu'en plein rush ou en plein boom. Mmh. Donc, il faut savoir aussi capter ces moments-là dans la conjoncture, dans machin. Des fois, ça peut aider l'entreprise de dire, OK, bah vas-y, on se quitte bons amis ou en rupture conventionnelle et tout. Si tu sens que ça peut être le bon moment de partir, des fois, il faut saisir cette occasion plutôt que rester et après te voir refuser ta rupture co. Et là, c'est moins chaud, enfin, c'est plus chaud d'entreprendre si tu n'as pas le chômage et tout. Voilà, donc là, tu fais d'une pierre 3 coups, tu t'es mis le pied à l'étrier, tu as une sécurité financière. Et puis surtout, moi, je voulais rester en bon terme avec mon employeur d'avant, que j'adore. Et tu vois, je ne considérais pas partir sur un clash, voire même dans mon idéal, je me dis, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui peuvent aussi faire leur première mission avec leur employeur actuel, ça serait trop bien. Et je pense que la vie professionnelle, elle va évoluer de plus en plus en opposant plus salariat et freelance, mais en les combinant.
Bien sûr, ouais. Mais c'est super intéressant. En t'écoutant, j'ai l'impression que tu t'es lancé sans avoir eu trop peur, quoi. Et pourtant, tu le disais, tu vois... T'es pas une freelance de la vingtaine, c'est-à-dire moi que j'appelle les freelances post-diplôme, dont je fais plus ou moins partie. Hein. Globalement, moi je me suis lancé, là ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans que j'ai fait mes premières missions, j'ai 29 ans aujourd'hui. Toi t'en as 38, t'as 2 enfants, tu te lances alors que tu viens de terminer ton deuxième congé maternité. Enfin, ça fait quand même pas mal d'incertitudes. Moi qui ai une aversion au risque assez élevée, même si les gens sont toujours surpris quand je dis ça, je me dis ok, et en plus t'as pas beaucoup à l'époque quand même, même si j'ai l'impression que c'est exponentiel, on parle de plus en plus du soloprenariat, du freelancing, etc. Et donc ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une accélération. Est-ce que c'est, je suis biaisé parce que je suis dans le milieu en tant que tel, mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie accélération. Mais du coup, tu vois, il n'y a pas vraiment de tu le disais tout à l'heure, tu vois, les rôles modèles, c'est des gens comme moi, donc qui ont pas d'enfant, à l'époque j'avais pas de crédit, j'étais un peu un peu libre. Toi, c'est quoi tes inspirations à l'époque, quoi, tu vois?
Tu sais, alors bon, moi je suis quelqu'un quand même d'optimiste, un peu bisounours, donc déjà il faut quand même le savoir parce que ça m'aide. Je pense du coup ça me met un peu des œillères et je me dis toujours, bah ok, et au pire quoi, bon,
ça va bien se passer.
Voilà. Mais du coup, c'est parce qu'aussi j'ai des capacités, je pense, d'adaptabilité. Et dans ma carrière, du coup, j'ai vécu aussi des moments un peu chauds. Et en fait, tu te rends compte, finalement, la vie de salarié, elle n'est pas de tout repos non plus. Et d'autant plus que maintenant que les paroles se libèrent, que tu vois des burn-out, des managers qui finissent en burn-out, des gens qui se retrouvent sur le carreau à 50 ans parce qu'ils n'ont jamais rien fait en side, ils dépendaient trop de leur boîte et ils se sont fait larguer comme des malpropres parce que c'est normal, des fois, les boîtes, elles évoluent et tout. Mais en fait, tu te rends compte que des fois, trop attendre, c'est presque prendre plus de risques que de se lancer en free et de voir que ça marche ou que ça marche pas. Et surtout, il faut se dire qu'il n'y a aucune décision qui est irrémédiable.
Irréversible.
Voilà. Et en ça, le freelancing, je trouve, me convient parfaitement parce que je me rends compte aussi que tu peux te lancer en ayant telle idée et finalement, 2 mois après, tu pivotes. 3 mois après, tu changes d'offre. 4 mois après, tu changes de secteur. 5 mois après, tu dis, bah non, finalement, je ne vais plus faire ça, je vais faire autre chose. Et l'énorme avantage, c'est que personne ne le voit, ça, parce que tu es tout seul. Tu n'as pas un site à changer, tu n'as pas un claim à changer, tu n'as pas ton branding à refaire. Donc voilà, c'est un peu plus détente, je trouve, comme format d'entrepreneuriat. Tu n'as pas la pression de devoir payer d'autres gens que toi. Donc moi, ça m'a finalement, bizarrement, ça m'a sécurisé. Je me suis dit, au pire, je m'en sortirai.
Mais d'ailleurs, on croit toujours, notamment sur le positionnement, de se dire, mais attends, si je change de positionnement tous les 3 mois comme Flavie, bah c'est pas sérieux, quoi. Les gens vont se dire, mais c'est qui, mais Flavie, qu'est-ce qu'elle nous fait? La réalité, c'est qu'en fait, les gens s'en fichent, quoi. Les gens le voient pas. La plupart des gens, franchement, ne verront même pas la différence et vont pas aller rechercher dans les 6 dernières années qu'est-ce qui s'est passé, comment a changé le site, comment est-ce qu'elle se présentait Flavie il y a 6 mois et puis maintenant. Et donc, c'est toujours un truc entre soi et soi, quoi. C'est-à-dire que nous, forcément, on voit tous les défauts, on voit tout le cœur du réacteur, puisqu'on prend quasiment 100% de ses décisions tout seul. Mais la plupart des gens sur le marché et à l'extérieur ne voient qu'une infime partie de ce qui se passe. Et surtout, ils ne sont pas tous les jours à rafraîchir votre profil LinkedIn pour savoir si il ou elle a changé son positionnement depuis la veille, quoi.
C'est clair. Et puis après, tu parlais de soloprenariat. Je pense que moi, ça a été aussi un déclic. Je me suis dit, autant faire freelance que freelance, je me suis quand même dit un peu, c'est dommage parce que je savais faire plein d'autres trucs. Et si maintenant, je fais que du freelancing à l'heure en exécution, je ne pourrais plus utiliser mes compétences de management, de direction, tout ça. Et là, quand j'ai commencé à voir poindre cette tendance de « on peut être entrepreneur solo », donc vraiment développer des produits, développer des choses qui passent à l'échelle, là, je me suis beaucoup plus reconnue. Et en fait, je me suis dit, toutes mes compétences de gestion d'entreprise, comment faire un business model rentable, comment vendre et tout ça, ça me servira. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai embrassé le modèle direct. Je ne suis pas passée par la case d'abord freelance et ensuite solopreneur. J'ai vraiment tout fait à la fois. J'ai d'abord lancé mon média, freelancé on the side pour me payer et puis très vite commencé à développer un peu tous les champs pour moi du solopreneur. Et c'est fatigant, mais c'est aussi ce qui me permet de me dire que peut-être un jour, ça permettra de passer à l'échelle et d'atteindre des niveaux financiers qui peut-être ne sont pas possibles si tu n'es que freelance.
Et on va revenir un peu sur effectivement le passage solopreneur, parce que mine de rien, on a des trajectoires sur lesquelles il y a des points de concordance, quoi, entre ce que moi j'ai fait et puis ce que toi aussi t'es en train de faire là-dessus. Juste pour revenir rapidement sur la partie freelance, tu nous avais dit plein de choses tout à l'heure. Au début, tu étais sur de la strat, puis tu t'es rendu compte qu'effectivement, en fait, les boîtes et les clients recrutent aussi des freelances, veulent bosser avec des freelances pour la partie opérationnelle. Il y avait la partie Malte sur la partie monopole personnel qui était hyper intéressante. Moi, peut-être pour revenir un peu sur le sujet avec une question pour recentrer un peu le point, comment est-ce que tu trouves tes premiers clients? Tu me disais que tu as fait partie d'un incubateur. Est-ce que tu as trouvé tes clients là-bas directement dans le réseau? Parce que tu t'es dit, je vois qu'il y a des besoins peut-être commerciaux, sales chez d'autres personnes. Comment est-ce que tu trouves tes 4-5 premières missions test ou tu as été voir un petit peu partout, tu as testé plein de secteurs d'activité, plein de genres de missions?
Première source, pourtant éloignée, c'est les plateformes de freelance, parce qu'on peut les décrier pour plein de raisons. Et surtout, une fois qu'on a un réseau, peut-être qu'on peut s'en passer. Mais au début, ça permet quand même du coup de découvrir des nouveaux clients qui n'avaient jamais entendu parler de toi. Donc ça m'a permis de trouver des premiers clients, surtout dans la cible startup qui utilise beaucoup ces plateformes-là, parce que c'est pratique pour eux. Deuxième source, le réseau. Évidemment, mon réseau d'avant, pour plein de choses, ils m'aident plus trop parce que on n'a plus les mêmes priorités. Mais par contre, une des bonnes façons de se lancer en freelance, c'est déjà aussi de faire la même chose que son métier d'avant dans une autre boîte. Donc ça, mon réseau traditionnel professionnel m'a emmené sur un plateau des clients. Et du coup, comme c'est des grands groupes, des grands comptes, c'est des gros montants de business. Donc ça, c'est intéressant aussi. Faut toujours un peu pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc avoir différents types de clients, des grands comptes, des petits comptes, ce genre de choses. Et puis troisième source, les incubateurs, les webinars, les choses où en gros, tu fais du coaching à l'heure ou du coaching en session, qui est du coup une autre forme de revenu que l'accompagnement freelance, mais qui te permet de t'alimenter, d'avoir plein de cas d'usage, de te former et puis de développer beaucoup ton réseau et ta preuve sociale, parce que comme il y a beaucoup de personnes qui profitent de ton coaching, ils pourront te recommander autour d'eux, et souvent les recommandations, elles arrivent par des liens faibles. Donc ça a été mes premières façons de trouver. Et peut-être une source alternative que moi, je n'ai pas étudiée, parce que j'en ai pas eu besoin, mais que tout le monde m'avait recommandé, c'est tout ce qui va être ESN, tu sais, cabinet, de, ouais. groupement. Et maintenant, on pourrait dire le les collectifs. Et ça, en fait, c'est pas mal aussi, parce que c'est de la vente indirecte. Tu vends peut-être pas ton TJM le plus élevé, mais bon, si t'aimes bien, tu rencontres des pairs, souvent c'est des clients intéressants parce qu'ils ont des plus gros budgets. Donc je pense que c'est une bonne source aussi de pas partir à l'aventure 100% seul et de se dire ok, j'accepte de me rattacher à des pseudo-entreprises pour commencer à asseoir mon activité de freelance.
Et d'ailleurs, tu vois, sur la partie mentoring, moi c'est un peu aussi ce que j'ai fait au tout début, grâce au podcast, par opportunité, j'ai pu bosser pour j'allais dire une plateforme, c'est pas vraiment une plateforme, plutôt une grosse entreprise de formation qui accompagne pas mal de freelance. Et en fait, en 4 mois, j'ai vu peut-être 80 personnes, quoi, avec 80 problématiques différentes. Et donc, d'un point de vue très personnel et égoïste, c'est aussi un très très bon accélérateur pour sa courbe d'apprentissage, à condition déjà quand même d'avoir un socle de connaissances et de bases qui sont là, parce que le coaching versus par exemple de la presta pure, le coaching, les gens attendent des réponses un peu en direct, quoi. Tu peux pas arriver en mode attends, je reviens vers toi d'ici 10 jours le temps que j'ai trouvé l'info. Ils attendent que tu puisses les débloquer rapidement. Peut-être sur le réseau, c'est intéressant parce que du coup, en plus, tu as un réseau, j'allais dire particulier. Tout le monde a un réseau particulier, mais je veux dire, tu as un réseau plutôt grand compte qui te sort un peu de ce que tu fais aujourd'hui. Tu disais qu'il t'avait servi une partie de tes missions. Je serais intéressé de savoir, est-ce que tu avais une méthodologie particulière? Est-ce que tu avais une démarche particulière dans le fait de les recontacter? Est-ce que c'était juste coucou, je me lance voilà. Est-ce que, je sais pas, pour certains, tu as été chercher des mises en relation, des points de contact? Est-ce que tu as un peu travaillé ton réseau d'une manière particulière qui pourrait être intéressante à partager?
Je l'ai pas assez fait, je pense. Ça fait partie de mes trucs sur ma longue to-do list, que tu dois avoir une méga to-do list aussi. par contre, un truc que j'ai fait régulièrement et pendant toute ma carrière, et peut-être que ça m'a préparé bien, tu vois, à l'entrepreneuriat, c'est que moi, j'ai toujours rajouté des gens à mon réseau de façon intentionnelle, des C-level, des homologues, des directeurs marketing, des directrices commerciales et tout. Et donc, en fait, semaine après semaine, j'ai toujours fait ça. Et du coup, j'ai eu toujours sur LinkedIn un entourage de C-level parce que moi, j'avais besoin d'eux pour qu'ils m'apprennent des choses et tout. Et tu vois, au début, je l'ai fait par curiosité pour apprendre d'eux. Et puis maintenant, je le fais aussi parce que c'est mes clients cibles. Et voilà. Et ça, je pense que ça m'a aidé parce que des gens que je pense que je ne connais pas, après, quand j'ai commencé à publier, je les voyais, qui m'envoyaient des messages. « Ah, c'est vraiment génial ce que tu fais sur tel truc. » On se tutoyait alors qu'on ne s'était jamais parlé. Donc ça, il ne faut pas sous-estimer aussi cette espèce de longévité, quoi. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas attendu d'être freelance pour prospecter. En fait, j'étais déjà toujours dans le networking, dans la prospection, dans l'apprentissage, parce que je me dis qu'on peut toujours avoir besoin de tout le monde. Alors, un de mes gros défauts, c'est que je dis jamais non. Donc, certes, je me fais des fois un peu déborder, je prends des cafés à droite à gauche, mais j'ai remarqué qu'aussi les opportunités, elles arrivent quand on n'est pas trop utilitariste. Et parfois, c'est des gens que j'ai aidés, à qui j'ai rendu service une fois, qui derrière, pour me renvoyer l'ascenseur, vont m'envoyer un client sur un plateau. Donc voilà, c'est un peu ma façon de penser qu'il y a un karma aussi dans le freelancing. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas que des méthodes de requin. Des fois, c'est tout simplement être un peu sympa, participer à la vie de tes associations. Ouais, ici, un réseau que j'avais oublié de citer. Les réseaux un peu classiques, tu vois, anciens d'école de commerce ou anciens de telle boîte. Eh ben ça, c'est pas mal. J'avais organisé des webinars aussi pour eux. Et voilà, ça m'avait permis aussi de recontacter. Et tu vois, t'es identifié. C'est un peu un endroit où les gens se connaissent, vont faire appel à toi. Donc ça, ça peut bien marcher aussi pour trouver tes clients.
Et puis, t'arrives avec t'as un point de contact commun, tu vois, que ce soit ancien des écoles, ancienne entreprise, réseau dans lesquels on était, apéro networking, je sais pas s'il y avait des franchises, ce genre de choses, effectivement. Hyper intéressant.
Et peut-être ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'au départ, moi, alors il faut savoir que mon podcast et mon activité professionnelle, elles ont peu de liens, quoi. Parce que finalement, je faisais un podcast, je fais un podcast pour les solopreneurs et mes clients en freelance, c'est du B2B grand compte. Donc on peut dire rien à voir. Sauf que c'est marrant comme quoi, je sais pas pourquoi, les gens, ils m'écoutaient, ils lisaient mes podcasts, ou parce qu'aussi sans doute qu'il y a plein de gens dans le B2B grand compte qui se disent, moi aussi je pourrais être solopreneur. Donc en fait, tu vois, et par ce biais-là, j'ai des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Flavie, je ne sais pas ce qu'on fera ensemble, mais j'ai envie qu'on bosse ensemble. » Donc limite, ils trouvent un prétexte pour bosser avec toi. Ou alors, chose surprenante et un peu sous-produit de mon podcast, on m'a contacté pour animer des webinars. commerciaux ou des webinars pour faire connaître des entreprises tech, et ben ça, c'est un truc super. C'est parce que du coup, comme je suis podcast host, les gens m'écoutaient, ils me faisaient confiance. Du coup, ils m'ont dit, en plus, tu t'y connais commercialement, donc on va croiser les deux et tu vas organiser des webinars pour nous. Parce qu'en fait, les webinars live, vidéo, ça fait peur à tout le monde, c'est chiant à organiser, mais en même temps, c'est vital pour faire connaître les boîtes. Donc tu vois, typiquement, des prestations de service.
Le side effect, ouais.
Qui me sont arrivées de façon collatérale à mon média, alors qu'au départ, je ne me serais jamais vue animatrice, quoi.
Mais je souris, alors celles et ceux qui nous écoutent ne peuvent pas le voir, mais je souris parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai lancé le podcast Tribu Indé, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais ça s'appelait Explore, qui n'a rien à voir. Et j'écoutais, du coup, moi, j'allais interviewer des freelances, donc des pairs qui étaient souvent plus avancés que moi pour... prendre un petit peu tous leurs secrets, les partager par la même occasion, mais globalement pour progresser moi en tant que personne et en tant que freelance. Et les gens m'ont dit, mais il y a un problème de positionnement, Alexis, là. Tu passes une journée et demie par semaine sur un podcast où tu adresses des freelances, alors qu'en freelance, tu adresses des startups, SaaS, B2B. Mm. Fais un podcast où tu vas, je sais pas, interviewer les marketeurs de ces boîtes-là et comme ça, tu feras du business avec. Et en fait, je me suis rendu compte que l'effet collatéral de ça, c'est que beaucoup de freelances m'ont fait des mises en relation à l'époque en disant je suis designer, j'ai un client qui cherche un copywriter, forcément j'ai pensé à toi. Globalement, tu dis pas trop de bêtises sur le podcast et que t'as la tête plutôt bien faite et donc ça doit bien marcher avec tes clients. Et en fait, comme ça, j'ai signé des missions. Il y en a certaines qui n'ont pas été plus loin, mais sur lesquelles j'ai eu des opportunités. Et donc, il ne faut pas sous-estimer aussi son réseau pair, entre guillemets, qui peut vous faire monter sur d'autres missions, qui peut vous faire rencontrer des opportunités que j'aurais jamais pu identifier de ce côté-là. Et de l'autre côté aussi, ouais.
Non, mais j'allais dire, tu étais précurseur, parce que tu vois, un truc que moi, j'avais senti dans le modèle du solopreneur à l'américaine, qui, à mon avis, manquait, c'était le côté communautaire. Et plus ça va, on va en reparler, mais Web3, freelance, communauté, enfin, il y a beaucoup de liens. Et donc, typiquement, une des façons de scaler en termes de chiffre d'affaires, c'est de faire de l'apport d'affaires. Donc, soit trouver des freelance potes qui ont les mêmes personas que vous et du coup, se faire recommander, donc apporter des missions, soit... du coup, recommander d'autres personnes et prendre, mettons, 10% ou 20% de leur chiffre d'affaires. Et moi, quand j'ai rejoint mon collectif de freelance Web3, tout de suite, je l'ai rentré dans mes lignes de revenus potentielles parce que, si, admettons que je rencontre un client qui a besoin d'un développeur Web3, je ne sais pas faire ça, je l'apporte au collectif et c'est signé. Si tu places un développeur Web3 pendant 6 mois à temps plein dans une boîte et que tu touches 10% de ce chiffre d'affaires, ça peut chiffrer très très vite. Donc si ça se trouve, tu gagnes 10 000 euros. Donc 10 000 euros, c'est peut-être, j'en sais rien moi, un mois de prestation. Donc un dixième ou un douzième de ton business plan de l'année peut être fait grâce à une simple mise en relation. Donc je crois qu'il ne faut pas négliger le réseau collatéral. On a tendance à trop se focaliser sur le réseau supérieur, genre les clients, ou en dessous, tu vois, genre les acheteurs. Mais en fait, le collatéral, il ouvre des énormes portes. Et ceux qui ont compris ça, à mon avis, ils vont aller loin aussi dans le jeu du freelancing.
Ouais, je suis complètement aligné avec ça, ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, tu nous as parlé un petit peu de ce que tu faisais en freelance. Comment est-ce que tu te positionnes? C'est quoi c'est quoi un petit peu le package d'offres que tu proposes à tes clients maintenant que tu as pu tester plein de choses, que tu as testé avec plein de secteurs différents, sur plein d'acteurs différents? Je vous ai dit tout à l'heure un peu en longue traîne que toi tes cibles aujourd'hui c'est des C-level. Qu'est-ce que tu leur proposes? Est-ce que tu as réussi à mettre des mots sur ce que tu vends aujourd'hui d'un point de vue expertise métier?
Alors, j'ai trouvé une tendance aux US, hein, comme beaucoup, comme souvent.
Ils sont toujours un peu en avance sur pas mal de trucs, bizarrement.
Voilà. Et puis, j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait ce titre-là récemment, qui d'ailleurs, elle m'a fait travailler après sur ses missions. Coucou, Sarah. Fractional CMO. Donc ça, c'était une directrice marketing fractionnelle. Donc, c'est-à-dire, en gros, des gens qui ont suffisamment de seniorité pour pouvoir bosser un ou deux jours par semaine pour la boîte. Et ça suffit parce qu'ils sont hyper pertinents, hyper clairvoyants. Donc, du coup, ils font gagner du temps. Du coup, on sort de la vente du temps un peu idiote. C'est-à-dire que plus tu es lent, plus tu chiffres, ce qui est quand même très paradoxal dans le pricing des freelances. On permet aux entreprises, on les rassure en leur disant c'est pas la peine de payer quelqu'un plein pot parce que finalement, vous allez le sous-employer. Enfin, surtout quand tu es une start-up en développement, tu n'as peut-être pas besoin d'un super senior, si le veulent, pour tout. Et en tant que free, c'est super parce que du coup, on a assez de temps pour faire nos autres trucs qui nous font envie en tant que solopreneur. Parce que moi, le pire pour moi, ce serait un client temps plein. Et je lui dirais ouais. Non, parce que moi, j'ai d'autres choses à faire. J'ai calculé sur Toggle quand je log mon temps. J'ai mesuré, je fais 21% de mon temps en mission facturable. Donc, en gros, la meuf qui bosse pas, quoi, un jour sur cinq. Le reste du temps, je bosse, mais je bosse pour le board. Je bosse pour mon collectif Web3, je bosse pour plein d'autres trucs que je développe qui vont m'aider à terme. Donc, c'est le fameux solopreneur. Et donc, fractional C-level, ça peut être très bien, fractional CTO. Donc, moi, ce serait fractional head of sales. Et après, j'ai ajouté une brique sectorielle qui est la tech ou le Web3, mais vraiment des sujets d'expertise un peu compliqués à expliquer parce que comme moi, je travaillais dans des choses un peu industrielles, pénibles et tout, je sais expliquer en mots simples et vulgariser des trucs compliqués dont les gens ne peuvent pas comprendre tout de suite l'intérêt pour eux. Et enfin, j'ai rajouté une troisième brique qui va être genre mon persona. Et donc, mon persona, c'est forcément quelqu'un de curieux, un peu futuriste, qui va s'intéresser à tout ça, qui va utiliser des outils comme Discord ou WhatsApp, de l'asynchrone et tout, parce que sinon, je suis malheureuse, en fait. S'il faut faire trop de réunions, venir en présentiel et que le mec, il s'en fout complètement des dernières tendances tech, ben, en fait, ça me convient moins bien en caractère. Et comme on n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup de clients quand on est senior, si on a un bon niveau de TJM, il suffit d'en trouver peut-être 3 ou 4 par mois, si on arrive à trouver une récurrence, bah si tu veux, voilà, vaut mieux être assez drastique sur le choix. Et donc, quand j'ai fait ce pivot, j'ai quand même eu un trou d'air et j'ai profité de l'été, le mois d'août, qui de toute façon est mort, pour changer complètement mon malt. Et bien, du coup, j'ai eu quasiment plus de lead. Mais par contre, le jour où j'ai eu un lead, la personne m'a dit « ça fait 2 ans que je cherche un profil comme toi ». Et on a fait affaire tout de suite.
Super intéressant. Ça me fait penser à deux choses. La première, je trouve que c'est l'illustration parfaite, effectivement, du monopole personnel. En tout cas sur le papier, c'est-à-dire que la partie compétence commerciale, on l'a en tête. Intéressant de se dire, t'as été plongé sur, t'es pas resté sur une réflexion en surface, de dire, ok, j'étais dans un milieu industriel, l'industrie, c'est un truc galère à, surtout quand il y a de la techno ou autre, c'est compliqué à expliquer. C'est compliqué de rendre la chose claire, ludique, avec un retour sur investissement. Et donc, j'ai développé cette compétence-là d'être pédagogue, de simplifier sans trop rendre les choses un peu bateau. Hop, tu te dis, bah tiens, Web3, c'est un peu les mêmes dynamiques. C'est-à-dire qu'on est sur un sujet qui est très complexe, pour lequel potentiellement il y a quand même des énormes opportunités, il y a des vrais cas d'usage. Maintenant, c'est toujours compliqué de comment est-ce que je passe de quelque chose de complexe à quelque chose qui finalement est pas si complexe que ça, qui peut être mis en place assez facilement. Et ensuite, le dernier point sur la cible qui est finalement assez clair. Donc, je trouve que c'est une bonne illustration. Et parfois, on se prend la tête sur juste sa partie compétences métier. Il y a d'autres choses à aller chercher, notamment dans ses expériences passées, dans ce qu'on a pu voir précédemment, qui est intéressante. Et le deuxième truc, c'est que la partie part-time est vachement intéressante. Et t'es beaucoup... Alors, je sais pas si... Moi, j'avais quelques personnes qui faisaient ça sur des métiers de compta. Donc par exemple des comptables qui sont à temps partagé ou des DAF qui font une journée par semaine par exemple chez les clients. J'ai ça aussi côté RH, notamment dans le bootcamp, je pense à Kevin qui est RH un peu à temps partagé, qui fait 1, 2 journées, 3 journées. Et effectivement c'est intéressant de voir que je le vois de plus en plus sur des métiers marketing, mais on pourrait très bien l'imaginer aussi sur des métiers de créa par exemple, ou sur des métiers un peu plus techniques, tu vois, que ça soit de l'automation, du no-code, voire du dev, etc. Potentiellement aussi sur des structures qui ont peut-être pas les moyens et pas forcément la maturité et le business pour recruter un CMO, une head of sales à temps plein, quoi. Il n'y a peut-être pas nécessairement besoin dans un premier temps d'aller chercher et d'aller lâcher 100K alors que le produit est encore en phase de test ou en phase d'accélération, quoi. Donc c'est deux choses assez intéressantes. Ouais.
Mais du coup... Il faut évangéliser continuellement les entreprises parce que moi, j'ai quand même bossé dans des boîtes où il n'y avait pas trop de freelance. Du coup, il faut leur montrer que c'est possible, y compris pour des métiers type sales et tout. Et qu'en fait, il y a des process et quand tu appliques des process, peu importe l'industrie, ça marche. Et après, deuxième truc, Faut aussi prendre des critères exogènes en compte, quoi, pour son monopole personnel, parce qu'en fait, potentiellement, on pourrait en avoir d'autres. Je pourrais aussi me dire que je fais du podcast dans des boîtes de telle taille, et machin. Moi, j'ai considéré aussi que le Web3, ça allait être en forte croissance. J'ai regardé aussi les chiffres et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pénurie de talents. Et enfin, j'ai fait mon propre petite recherche et j'ai fait un reportage audio, je suis allée interviewer des gens dans ce domaine-là. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a beaucoup de tech, mais il n'y a pas encore beaucoup de fonctions support. Donc, si je me mets déjà en mode head of sales ou partnership dans ce truc, sans doute que ça pourrait marcher parce qu'ils en auront besoin à un moment ou à un autre.
Signaux faibles, hein.
Donc, les signaux faibles, non, mais choisissez aussi des trucs qui vont être un peu des vaches à lait, parce que des fois, moi, je vois des intersections, j'ai envie de dire, OK, mais bon, ça va pas te rendre la vie super simple, parce que c'est des marchés qui fonctionnent pas trop, ou alors on te paye pas beaucoup. Je pense que tu es d'accord que là où il va y avoir beaucoup de levées de fonds, il va y avoir de l'argent pour les freelances. Et donc, comme par hasard, en 2021, ça levait des fonds un max sur les trucs Web3. C'était un peu les nouveaux SaaS. Donc, du coup, bon, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Bah, typiquement, je sais que ça va pas plaire à certains, mais je continuerai de le dire et je continuerai de me battre pour ça, mais vouloir vendre de la prestation de service, je parle bien de prestation de service, à des jeunes entrepreneurs, à des solopreneurs ou à des freelances, c'est pas impossible. Encore une fois, je sais que parfois on me dit mais non Alexis, c'est faux, regarde machin qui fait ça. Oui, ok, sauf que c'est se rajouter des difficultés à une aventure qui est déjà pas toujours facile. Et donc, oui, faire des sites internet pour un solopreneur qui fait 40 000 euros de chiffre d'affaires, le cycle de vente, il n'est pas aussi simple que d'aller chercher une entreprise qui a peut-être déjà un site un peu vieillissant, une PME qui n'est jamais adressée par des agences et qui, en fait, n'a qu'une envie, c'est de trouver un bon profil qui va l'accompagner, qui va pouvoir lui packager quelque chose sans non plus la racketter 60 000 euros pour faire un site vitrine, etc. Donc, il y a aussi des sujets où parfois je vois trop de. Soit c'est d'aller chercher de la simplicité, de se dire je vais interroger, je vais cibler des gens qui sont comme moi, mais les gens comme soi, potentiellement, c'est pas ceux qui ont le plus de budget. Et mine de rien, l'argent est quand même un moteur de décision pour des entreprises, quoi. Si elles n'ont pas l'argent, elles ont beau vouloir bosser avec vous, c'est plus compliqué, quoi.
Ben peut-être que c'est la casquette d'avant, d'avoir vu beaucoup de choses, de tableaux, de rentabilité, de trucs, qui fait des fois que je pose un regard un peu clinique sur ma propre activité, parce que sinon on peut vite se laisser emballer, est-ce que ça me plaît pas, nanana. Des fois je me regarde un peu comme si j'étais mon propre manager et je me dis, mais attends, mais là ce que tu es en train de faire, ça sert à rien, c'est pas scalable, ou là tu te perds dans des détails, ou là il faut que tu cutes ça. Si tu étais le PDG de cette boîte, qu'est-ce que tu ferais, tu vois? Et je pense que ça, c'est des fois des trucs que quand tu es senior, tu peux aller plus vite et repérer ces modèles-là, si tu les vois, au lieu de t'entêter dans des trucs qui vont pas te faire vivre, qui seront chouettes, mais bon, on a quand même besoin aussi de pouvoir un petit peu moins bosser, un peu plus gagner sa vie, parce qu'au final, quand tu es indé, sinon tu finis en burn-out, en fait. Donc ça, c'est un vrai risque, je trouve.
Et j'ai une dernière question avant qu'on parle un petit peu de ton écosystème. Sur la partie pricing, du coup, comment ça se passe, tu vois, sur un métier un peu, c'est pas un part-time, hein, on te prend pour quelques jours potentiellement par mois. Comment ça se passe d'un point de vue, parce que du coup, tu vois, t'es sur la récurrence, est-ce que tu vends du résultat ou du projet, par exemple, mon objectif c'est d'aller, c'est qu'on aille signer ensemble, je sais pas, X grand compte ou que je ramène X logo dans la boîte, ou bien t'es payé du coup à la journée travaillée. Comment ça se passe rapidement un peu ton pricing, parce que je serais intéressé de savoir comment ça marche.
Alors je suis pas au bout, hein. Je change régulièrement, je pense tous les 3 mois, 4 mois, tu vois, je m'interdis pas de revérifier si c'est toujours en adéquation avec ce que le client veut et tout. Ce que j'ai trouvé qui fonctionnait bien, c'est un principe d'abonnement mensuel, donc où en gros je dis pour tel prix t'as ça. Et là, je liste non pas les heures travaillées, mais tout ce que je vais donner. Alors, ça sort pas de rien, ça sort quand même d'un nombre d'heures travaillées, quoi, à peu près. Je vais dire, tu as jusqu'à 40 rendez-vous clients, mais comment je compte? Je compte 15 minutes par rendez-vous, puis, enfin, tu vois, donc du coup, je calcule. Et vraiment, j'ai transformé les heures en livrables, en objectifs. Donc, jusqu'à 40 rendez-vous clients, ça, c'est intéressant, hein, pour quelqu'un qui se dit, attends, la fille, elle peut me recevoir jusqu'à 40 clients en prospection. Tout de suite, il voit tout le temps qu'il gagne. Après, ce que j'ai fait aussi, c'est que je fais un fixe plus un variable. Donc, variable minimum 10% pour montrer que je suis skin in the game, intéressée par les résultats et voilà.
Et tu diminues ton fixe ou pas? Ou c'est non, c'est ton fixe et ton fixe, et puis tu prends en plus un variable.
C'est mon fixe plus un variable. Après, j'ai fait en sorte que, tu vois, d'un point de vue prix psychologique et tout, ça soit moins cher que d'employer un business développeur, même junior, avec les charges salariales, patronales, machin. Où du coup, je me dis, je sais pas, c'était autour de 3 900 € par mois. Donc, ça a l'air beaucoup, mais vu que c'est des tickets d'entrée que je choisis aussi, des tickets moyens de closing qui sont élevés, 15 000, 20 000 €, j'ai aussi calculé en me disant que ça peut vite être rentabilisé. Si je fais 3-4 mois, dès que je close un, ça va rembourser la mission. Donc voilà, donc aussi j'ai fait ça et je l'ai bien explicité au client. Et depuis que j'ai changé ce pricing, ça a été accepté tout de suite. Après, la difficulté, ça va être de le prolonger dans le temps. Donc ça, est-ce qu'il ne faudrait pas que je réfléchisse à des systèmes d'abonnement annuel ou des trucs comme ça? Je ne sais pas trop comment faire. Et pour la partie fractionnelle, j'ai peut-être sinon pensé faire un deuxième produit qui sera plutôt de l'entretien, c'est-à-dire un peu moins intense, un peu moins cher, mais où du coup, ça pourrait être 1 000 ou 1 900 €, quelque chose comme ça, où du coup, c'est moins coûteux de me garder, mais tu me gardes parce que je vais gérer les petits trucs qui vont arriver au fur et à mesure, un peu comme la maintenance d'un site informatique. Et ça, c'est vrai que depuis longtemps, je cherche quel pourrait être mon équivalent pour mon métier. Donc voilà, en tout cas, je suis sur un mix entre gros tickets et quand même récurrence, parce que le problème, c'est que c'est trop gros tickets, ils vont se séparer toi le plus vite possible, c'est bien normal pour pouvoir internaliser la fonction.
Ouais, donc tu les engages quand même sur 3 mois, mais le coût est presque, j'allais pas dire un no-brain, mais effectivement, quand la personne fait le calcul de « Attends, Flavie, elle a de l'expérience, elle a de la bouteille, elle peut nous ouvrir son réseau, elle me vend pas du résultat, mais en tout cas, elle me vend du projet, non pas du temps passé. » Ce que tu pourrais tester, par exemple, c'est de te dire, alors je connais pas exactement la typologie d'entreprise que t'accompagnes, mais tu vois, tu pourrais essayer d'aller vendre derrière une offre un peu de copilotage, c'est-à-dire… aider le CEO par exemple dans le recrutement des premiers sales, et tu vois là de bénéficier en fait de l'expérience, du coup de revenir sur ton monopole qui est de dire bah en fait moi j'en ai géré des centaines de commerciaux, je t'aide à peut-être à je sais pas à créer des grilles d'entretien etc, et puis derrière je te fais un peu de la formation où je te prends en fait tu me prends là tu vois tu repars sur un modèle un peu mentoring et là tu peux potentiellement c'est tu reviens sur voilà, ça va lui coûter peut-être 1 000 1 500 €. Mais il a quelqu'un en backup, en soutien de ses équipes, il fait monter les, tu fais monter les équipes
Ouais, c'est une
commerciales,
super
etc., quoi.
idée et du coup, tu vois, c'est ce que je vais explorer. Et enfin, dernier truc, il n'y a pas longtemps, j'ai fait la shrinkflation parce qu'en fait, le freelance, il
Qu'est-ce
pense
que
toujours
c'est?
à... Alors, je vais t'expliquer, c'est comme dans les supermarchés avec l'inflation, tu sais, pour pas monter les prix parce que c'était tellement délirant, ils ont enlevé de la quantité de produits, genre un paquet de chips, au lieu que ça soit 100 grammes, c'était genre 92 grammes, du coup, psychologiquement, ça passait bien. Ben, je me suis dit, je vais faire pareil, parce que si les freelances, vous pensez toujours à monter vos prix, mais vous ne pensez pas que vous pourriez enlever du service qui ne sert à rien et dont tout le monde se fout, du coup gagner du temps et devenir plus rentable. Et moi, souvent, ça me parle, rentabilité dans l'entreprise. D'abord, tu économises tes coûts avant de monter tes prix. Donc, ce que j'ai fait, j'ai listé sur un Notion tout ce que je faisais pour un client et j'ai barré tout ce qui ne servait à rien, où au final, jamais un client m'a dit, ah, mais merci pour tel truc, tu vois. J'ai gardé la substantifique moelle. Et donc ça, c'était la première étape. Du coup, j'ai gardé le même prix, mais en mettant moins de choses dedans, mais que des choses vraiment de valeur. Et enfin, deuxième façon de scaler, c'est si je trouve 2 ou 3 clients qui ont exactement le même persona sur exactement le même type de marché, je prospectais une fois, mais ça marchera pour 3 clients. Et donc là, c'est à moi derrière de trouver exactement le même persona pour gagner du temps. Un peu comme si tu étais designer en agroalimentaire et que du coup, tu trouvais 3 marques alimentaires. Comme ça, quand tu fais ta recherche sur l'environnement agroalimentaire, ben, tu as gagné, tu t'as fait ta recherche une fois pour toutes pour les 3 boîtes. Donc, tu vois, cette logique-là aussi de processer son activité, de se dire, attends, arrête d'aller dans tous les domaines, mais concentre-toi sur un domaine parce que tu vas devenir meilleur. Du coup, les clients vont appeler d'autres clients, tu auras de la preuve sociale et en plus, tu gagneras du temps parce qu'une marque prospectée une fois, tu pourras peut-être la placer chez plusieurs clients.
Et je rajouterais un truc, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'est-ce qui n'est pas indispensable dans la réalisation et la réussite de ta prestation, et donc de cuter. Et je rajouterais un autre truc, je ne sais pas si tu l'as fait, mais je peux te filer l'info, c'est de comprendre ce que le client, à la fin de la mission, a vraiment valorisé dans ton travail. Et donc, par exemple, moi, c'est comme ça que sur certaines missions, en fait, je me suis rendu compte que des trucs qui, pour moi, n'avaient pas beaucoup de valeur, me prenaient pas beaucoup de temps, me demandaient pas beaucoup d'énergie, en fait, avait finalement énormément de valeur pour le client et c'était quelque chose qu'il a mis en avant naturellement au moment où je l'ai questionné, etc. Et donc, ça veut dire aussi que bah, ce que vous devez mettre en avant dans votre offre commerciale, dans vos négociations, c'est pas toujours ce que vous, vous pensez avoir de la valeur, mais aussi ce que le client va pouvoir valoriser potentiellement d'un point de vue livrable, d'un point de vue, je sais pas, process, etc. Je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi cet angle-là, de se dire, ok, qu'est-ce que le client aussi valorise? Parce que parfois, on peut avoir des surprises. Moi, j'en ai eu à titre perso, des bonnes surprises sur des choses, j'aurais jamais cru que ça avait de la valeur en interne. Et pourtant, c'est des trucs qui sont remontés régulièrement, quoi.
Ouais, bah écoute, merci pour les tips. Je vais potasser ça. De toute façon, à chaque mission client, je me repose un peu 2 secondes pour voir qu'est-ce que je peux changer, améliorer aussi, quoi.
J'ai envie on a beaucoup parlé de la partie freelance. Effectivement, tu as tout l'écosystème, le board à côté où il y a une newsletter, du podcast, il y a même du blog, il y a des produits sur lesquels on va revenir. J'ai juste une question sur le podcast et puis après, je te propose qu'on passe aussi sur la partie revenu asynchrone qui est intéressante que t'es, et sur lequel tu es dans le dur en plein dedans. Sur le podcast, il y a un truc que je trouve très intéressant parce que tu aurais pu faire la voie de la facilité comme j'ai pu le faire, mais peut-être quelques années après, qui est de faire du podcast d'interview. Même si on en parlait tous les deux, bah, il n'y a pas tant de. Tu vois, j'ai arrêté le podcast pendant quasiment 8-9 mois. Il n'y a pas eu trop de relèves. En tout cas, j'ai pas vu trop de podcasts dans mon radar qui sont arrivés. Donc je pense qu'il y a toujours des opportunités intéressantes de faire de l'interview. Toi, tu en as fait. Mais tu as aussi eu l'idée d'avoir un autre concept que je trouve vachement intéressant, qui est une sorte de concept un peu série, où tu prends une thématique que tu vas découper en micro-épisodes de podcast. Moi, je serais curieux de savoir déjà d'où t'es venue l'idée. Tu vois, pourquoi est-ce que tu t'es dit, ok, j'arrête, enfin potentiellement, je mets un peu moins d'énergie sur les interviews et je crée ce nouveau concept de série. Je suis curieux parce que je trouve l'idée très bonne, j'aurais aimé la voir. Du coup, je suis un peu curieux de savoir ouais, d'où ça t'est venu et comment tu. Et puis ensuite, comment tu structures ça, on pourra voir ça rapidement après.
Mais t'as tellement d'autres idées trop cool, Alexis, t'inquiète. Eh ben, d'où m'est venue l'idée? Grosse coupe, regarder Netflix. J'ai beaucoup regardé Netflix. Je regarde beaucoup Netflix. C'est une grosse inspiration business. Non, je rigole. J'ai même pas lu en plus le livre de Reed Hastings. Hein. C'est même pas ça que je veux dire. Enfin, je sais plus si No Rules, Rules.
Ouais.
C'est même pas Netflix en tant que business model. C'est juste, je regardais des séries. Je voyais l'émergence des mini-séries. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Les mini-séries, ça pourrait se faire en podcast. Tu vois, j'y ai pensé comme ça. Et là, je me suis dit, bah. Il suffirait, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Bah, il faudrait que je fasse un peu une narration, parce que du coup, sinon, ce serait trop chiant si l'épisode 1, ce serait présente-toi, bidule, machin. Donc, il faudrait qu'on cut les présentations, qu'on aille direct dans le vif. Je pourrais faire 5 épisodes, parce qu'il y a 5 jours dans la semaine. Et comme de par hasard, 5 fois 5 minutes, 25 minutes, on retombe à peu près sur finalement la même durée qu'une interview. Donc voilà, à partir de ce moment-là, cette intuition, je l'ai fait bêta-tester à certains auditeurs qui avaient le mérite de m'écouter alors que je faisais encore un podcast un peu chiant à l'époque. Donc, merci à eux. Je leur ai envoyé le modèle et je leur ai dit, voilà, j'ai enregistré 3 bêta-tests de mini-série. Qui veut écouter quel thème et puis me dire ce que vous en pensez. Et en fait, ils ont tous kiffé parce que j'ai mis un petit interlude musical. Enfin, tu vois, tout de suite, je me suis pris pour Walt Disney, quoi. J'ai mis un générique, de la musique. Enfin, je me suis éclatée, j'ai passé des heures de montage. Et quand c'était validé, en fait, c'est ça qui m'a fait vraiment changer de nombre d'écoutes, en fait. Parce que du coup, c'était juste différent des autres podcasts. Et parfois, des fois, il faut en passer par là pour que les gens se mettent dans la playlist. Et deuxième effet qui se coule, j'avais pas pensé à ça, c'est que comme le premier épisode à écouter, du coup, il dure 5 minutes, 7 minutes, ben, si tu veux, l'effort demandé est moindre que quand il faut écouter un Mathieu Stéphanie, quoi, tu vois, et que c'est la première fois que tu écoutes un podcast. Et donc là où Mathieu il est très fort, c'est qu'il capte 3 heures de cerveau des gens chaque semaine. Mais bon, là où moi je suis forte, c'est que du coup ça met le pied dans la porte, c'est plus facile. Et des gens qui sont pas très podcast, ils vont écouter un thème. Et en fait, j'ai regardé dans les stats, tout le monde écoute le podcast jusqu'au bout parce qu'il y a le côté frustrant du previously et du prochain épisode. On va parler de ça. Et donc tu es d'accord que c'est très difficile d'arrêter une série au milieu. Et donc tu écoutes jusqu'au bout.
Je confirme, je confirme. Et comment est-ce que tu structures ça avec parce que bah tu le dis très bien, tu vois, il y a un côté narration, c'est pas du tout la même construction, c'est-à-dire que l'interview bah pour celles et ceux en tout cas qui pensaient que c'était à la One Again très bien dé, j'ai quand même un doc, j'ai une structure, moi je réfléchis à une structure, à un angle, un peu à une thèse que j'ai envie de défendre avec chaque invité du podcast. Donc ça me demande de la préparation, mais c'est pas la même préparation que de construire un storytelling, en tout cas avec des rebondissements potentiels, un cliffhanger à la fin de chaque épisode pour relancer sur le prochain épisode, etc. Comment est-ce que tu structures ça? Parce que t'es pas toute seule, quoi. C'est-à-dire que tes séries, tu les co-crées avec tes invités, qui eux apportent leur expertise. Comment est-ce que tu fais pour que ça rentre un peu dans tes cases à toi de narration? Je serais curieux de savoir, tu vois, comment est-ce que vous répartissez le travail pour pas non plus que ça demande 100% de travail à l'invité et qu'ils se disent, attends, en fait, ça, je préfère faire une interview où j'ai pas le temps de construire une série de 5 épisodes, quoi. Flavie, elle est très gentille, mais...
Bah, bof, en fait, non, mais ça me prend pas plus de temps qu'une interview classique. Alors déjà, j'aimerais progresser en narration. C'est pour ça que je cherchais des bouquins, des trucs, c'est pour apprendre à écrire vraiment l'écriture de série. Je pense que ça serait sympa pour mettre plus de tension encore. Donc ça, c'est...
J'ai un très bon livre que je peux te recommander qui s'appelle Save the Cat. Alors, il n'est pas traduit en français. Je crois que le gars s'appelle Scott Snyder, mais Save the Cat. Tu pourras regarder,
trop bien.
Qui est vraiment bien.
Ben. Merci beaucoup. Et après, donc je fais un call de préparation de 15 minutes avec l'invité. Moi, j'ai déjà repéré souvent une coloration, enfin un truc qu'il a à dire d'intéressant. Je lui dis, voilà, ça, c'est le fil rouge. Mais comment tu pourrais découper ce truc en 5 points intéressants? Et après, j'ai fait une structure très détaillée par épisode, où chaque épisode, tu dois donner un concept, un exemple, un défi et une ressource. Et en fait, ça force l'invité à travailler malgré lui. Et au début, ouais, mes invités m'ont dit, par rapport à d'autres podcasts, ce qui est dur, c'est de tenir dans le temps et de dire tout ce qu'on a à dire en si peu de temps. Donc, je pense que c'est un exemple où la contrainte, c'est une bonne chose parce que du coup, ils préparent plus. Alors que des fois, bon, on l'a tous eu, des fois, tu as un invité qui s'écoute un peu parler, il y a un peu des digressions et c'est moins bien préparé. Là, au moins, ils peuvent pas parce que je vais leur couper le sifflet et ils ont 5 minutes pour, sur ce thème-là, ce sous-thème, donner un maximum de valeur. Donc, après, à eux de préparer.
Et par curiosité, par exemple, une série, alors l'avantage c'est que effectivement ça fait aussi beaucoup d'écoute parce que t'as une. Globalement, tu joues entre guillemets 5 fois l'épisode en tant qu'auditeur plutôt que d'écouter une fois par exemple notre podcast. Même si les gens l'écoutent plusieurs fois, je crois que dans les stats ça compte comme une seule fois. Ça fait combien une série en moyenne? Ça fait combien d'écoute à peu près?
Alors, du coup, je regarde pas par série parce que c'est un peu pénible. Ouais. C'est des stats par épisode, mais en gros, là, j'en suis à 15 000 écoutes mensuelles. Donc, il faudrait diviser par 4.
Par 20 épisodes, quoi. Ouais.
Ouais.
Enfin, oui. Ouais.
Ou même, en fait, les gens, après, ils écoutent les épisodes d'avant. C'est l'avantage aussi d'avoir un peu un historique. Je vais prendre ma petite calculette. Parce que je suis, je prends mon iPhone.
Oui, ça te fait du 3-4 000 par série, on va dire, en moyenne, quoi, peut-être. Okay.
3-4 000 que tu divises ensuite par 5. Donc, ça doit faire, tu vois, pour avoir le nombre d'auditeurs unique, ça doit faire 750 écoutes par mini-série, donc 750 auditeurs, en gros.
Ce qui est intéressant, ouais.
Et ça, c'est intéressant. Et après, le deuxième truc que j'ai osé faire, et je pense que c'est un parti pris, c'est de faire des thèmes très différents. Donc, un coup, ça va être... écrire une newsletter payante, comment faire? Donc, hyper spécifique. Le lendemain, enfin, la semaine d'après, ça va être est-ce qu'on doit s'associer ou non en tant que solopreneur? La semaine d'encore après, freelance débordé, comment je peux faire pour mieux m'organiser? Donc, tu vois, c'est... Autant avant, j'avais la tendance à vouloir tout dire, tout faire et tout. Maintenant, je suis genre hyper zoomée. Et depuis que je fais ça, pareil, ça marche mieux. Parce qu'en fait, du coup, quelqu'un rentre par un problème. Et puis il restera peut-être parce qu'il se rend compte qu'il a d'autres problèmes en stock et du coup il va écouter plusieurs épisodes, alors que des fois le truc un peu généraliste, ça te donne pas trop envie de rentrer parce que tu sais pas si ça va répondre à un vrai problème chez toi. Donc voilà, et puis après grâce à des gens comme toi ou d'autres dont c'est le métier, j'ai amélioré j'ai mieux cerné les problèmes, j'ai mieux cerné les problématiques, mais parce qu'aussi c'est devenu une communauté. J'échange beaucoup avec les auditeurs, ils m'envoient beaucoup de messages, comme pour toi avec Tribu Indé. Et du coup, maintenant, je me rends compte aussi de leurs vrais problèmes et peut-être que je fais des trucs qui sont plus en rapport avec leurs problèmes à eux qu'avec ce que j'avais imaginé être un problème.
T'as créé une communauté Moi, tu vois, j'ai toujours ce truc. Je suis toujours un peu critique sur audience versus communauté. C'est-à-dire que moi, j'en vois quand même beaucoup qui disent « Ouais, on a une super communauté, machin, etc. » En fait, la réalité, si on est franc, c'est plus une audience qu'une communauté. Pour moi, la communauté, c'est un endroit où l'information, elle descend, c'est-à-dire du créateur-créatrice aux personnes qui consomment l'information. Mais aussi, effectivement, l'info, elle remonte. Mais surtout, et donc là, on est presque sur un modèle audience classique, l'aspect communautaire, pour moi, il est quand les personnes... se regroupent dans une tribu et peuvent échanger les uns avec les autres sans nécessairement avoir besoin du créateur ou de la créatrice pour faire le lien à chaque fois. Et donc, par exemple, tu vois, moi, je considère que sur une newsletter, j'ai plus une audience qu'une communauté parce que bah, j'ai des retours sur chaque newsletter, mais il n'y a que moi qui vois ces informations-là. Versus, par exemple, le bootcamp est vraiment une communauté parce que les gens interagissent sans même que j'ai besoin d'interagir avec eux. Du coup, je serais curieux de savoir, toi, est-ce que tu as mis en place une communauté où tu considères que tu as de l'audience parce que c'est assez siloté, c'est-à-dire que des personnes te font des retours à titre individuel, mais est-ce que tu as un espace communautaire, toi, aujourd'hui, sur le board ou c'est en projet?
Moi, je pourrais dire j'ai une proto-communauté parce que c'est pas encore. Je pense qu'ils pourraient pas échanger encore vraiment sans moi. J'ai créé un Discord pour voir un peu. Et spontanément, il y a genre 200, 300 personnes qui sont allées dessus. Donc, tu vois, sans trop faire de pub et tout, ça montre qu'eux, ils ont envie d'interagir et c'est déjà beaucoup. Voilà. Donc, ce Discord, j'ai décidé de l'animer de plus en plus. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est que des fois, après un épisode avec un invité, on fait un live
Trop bien.
avec l'invité et du coup des auditeurs. Et les lives, en fait, c'est une très bonne façon de réunir les gens. Je fais aussi plus de lives maintenant sur LinkedIn pour ça, parce que du coup, ils peuvent me parler en direct, on se fait des blagues et tout. Donc ça, je vais le faire de plus en plus. Et j'ai vu que certains podcasteurs faisaient ça, ça m'a beaucoup inspirée, faisaient des événements dans la vraie vie, tu vois, la soirée des 2 ans, machin. Et en fait, on voit bien, nous, que les auditeurs, ils ont plein de points communs. Donc, par exemple, là, je vais organiser bientôt un truc de co-working, co-living, surf, avec des solopreneurs. Donc, on sera à 10. Bah, je pense qu'il y en aura qui viendront du board. Et enfin, dernier truc, il y a un événement super sympa à Nantes que peut-être tu connais, le Web Today, c'est un peu comme le Vivatech local. Et ben, j'ai dit, bah, vas-y, on va faire gagner des places et on va s'organiser un apéro sur place avec ceux qui veulent découvrir cette belle ville de Nantes. Et comme ça, on se rencontre. Et donc, tu vois, de plus en plus, je me dis, puisque moi, je suis quelqu'un d'assez sociable dans ma vraie vie et tous les 4 matins, je vais manger au resto avec des solopreneurs à Nantes et tout, je me dis, on peut le faire aussi dans la communauté. Et enfin, dernière étape que j'ai faite, avec les NFT, j'ai créé un comité média pour, en gros, avec. Alors, j'avais créé 50 places à 100 euros pour financer le podcast, bien sûr, parce que je n'avais pas de source de financement. Et j'en ai vendu, je crois, 35. Et donc, c'est les 35 membres de mon comité média. Et en fait, ça, on se fait des réunions tous les mois pour le futur du board, qui on invite, qu'est-ce qu'on fait et tout. Donc, évidemment, je les remercie. C'est des fans, ils m'aident à financer le podcast. Et là, tu vois, ça, c'est une vraie mini-communauté, mais qui fonctionne. Parce que les gens, ils ont bossé entre eux. Tu vois, ils se connaissent, quoi.
Et alors ça m'intéresse et du coup en plus ça me permet d'aller sur deux sujets qui sont la partie bah, c'est une source de revenus comme une autre et puis il y a une dimension un peu NFT slash Web3. Comment ça marche ces comités? C'est-à-dire que tous les mois vous faites une visio et en gros ils ont enfin je serais curieux de savoir ouais, concrètement comment ça fonctionne. J'ai jamais vu ça du coup
Ben, non, alors moi j'ai entendu des médias où ils faisaient déjà ça. En fait, c'est
Ok.
une façon un peu bénévole de, tu vois, de faire participer les gens. Parce qu'en fait, beaucoup de gens ont envie de participer parce qu'ils n'ont pas la foi de faire leurs propres médias ou tu vois, ils ont un peu peur parce que c'est quand même compliqué. Voilà. Après, je vais te dire, moi, quand j'y pense, je le programme. Après, je me dis, alors attends, c'est quoi les trucs sur lesquels j'aurais besoin d'un avis pour pas faire n'importe quoi? Je le mets à l'ordre du jour et après, je leur propose et ils me disent, ouais, c'est bien, mais on pourrait améliorer comme ci ou comme ça. Ou tiens, je connais quelqu'un qui pourrait venir parler de ce sujet. Voilà, exemple de dernier sujet de la semaine dernière. Première opération avec un partenaire financier. Comment ça doit se passer pour que ça soit bien pris? C'est quoi les guidelines et tout ça? Donc, tu vois, quand tu as un sponsor, pour pas que ça soit du coup un truc mal fait. Les futurs NFT, qu'est-ce qu'on fait comme futur NFT? Est-ce qu'on fait des NFT annuels de financement de saison? Est-ce qu'on fait de la redistribution des fonds aux autres membres du board et tout ça? Et puis, pas mal de building public aussi. Je leur raconte mes difficultés, ce qui a marché et tout. Et eux, ça leur plaît et du coup, ils m'apportent de l'aide aussi. Ah ouais, et troisième sujet, comment faire des auditeurs, des ambassadeurs avec, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur demander à votre avis et vous feriez quoi? Enfin voilà. Et des fois, c'est intéressant ouais, de faire parler des gens qui ne sont pas les hosts du podcast. Et comme ça, ils osent te dire un peu. Des fois, ils m'ont dit, bah, tu sais, tu pourrais nous demander de faire plus de trucs et tout. Enfin voilà, tu vois, c'est une façon de se faire aider, en fait, comme un peu un board.
Ah, c'est hyper intéressant. Donc ok, et donc ça vaut. Donc en gros, si moi demain je veux faire partie du board de Flavie, c'est quoi? C'est 100 euros, c'est ça?
Ça, je
Et
l'avais
c'est
mis
un
à
one shot.
100 euros pour
Ok.
tester. Et tu vois, il y a plusieurs modèles qu'on pourrait imaginer, mais c'est notre confrère Carlos Diaz qui fait Silicon
Ouais.
Carnet, qui dont j'avais testé la plateforme de mint de NFT, là, Uncut, lui, il a fait 50 coproducteurs de sa saison, saison 4, je crois, donc une saison par an. Et les 50 coproducteurs, c'était peut-être 200 € ou 250 € le NFT. Tu récupères une partie des ventes des NFT, te sont reversées. 30% des ventes totales de tous les NFT, de tout le podcast, sont reversées à ces coproducteurs. Donc, tu vois, il y a aussi certes un investissement, mais une forme de retour sur investissement. Tu vois, ça va dans les deux sens. Et là, ça commence à être intéressant. C'est presque comme des actionnaires avec du coup des royalties ou des stock options. Et donc, en fait, tu peux imaginer tout un tas de modèles économiques. Moi, j'ai fait vraiment un truc basique pour commencer. Peut-être que demain, ça s'améliorera. Et là, je viens de tester un deuxième modèle économique qui est que quand ça s'y prête avec l'invité, on organise le fameux workshop pour aller plus loin sur le thème. Là, par exemple, j'avais JB, un coach ChatGPT. Donc, on organise une heure de workshop avec les gens qui achètent le NFT de l'émission, donc 30 €, pour leur apprendre à paramétrer ChatGPT pour les aider dans leur quotidien de freelance. On ouvre jusqu'à 20 places et on se partage le chiffre d'affaires 50-50, lui et moi. Voilà, donc on ne va pas devenir millionnaire, clairement. Mais bon, si à chaque épisode ou chaque semaine, on organise un workshop et que moi, quelque part, je le mets juste au service de la communauté et ça me fait un peu des revenus, bah ça me permet de couvrir mes frais de montage. Donc, tu vois, enfin, voilà, moi, je ne me mets pas de pression sur les résultats. J'essaye juste de tester. Et même si des fois, à la fin, je me dis, ah, tout ça pour 100 €, bon, bah, 100 € c'est une mini-série et demie de montée.
Ah, c'est hyper intéressant. Et je prends la casquette, j'allais dire la casquette vieux con, c'est pas du tout ça en plus, mais la casquette de la personne qui est un peu sceptique, voilà. Sceptique NFT, qui pourrait dire, mais Flavie, qu'est-ce que tu t'embêtes à faire des NFT? Pourquoi tu ne mets pas un lien Stripe? Et voilà, tu fais c'est 30 € le workshop ou c'est 100 € pour être au board. Voilà, tu prends un lien Stripe. Pourquoi est-ce que tu t'embêtes à faire des NFT sur le board?
Ce sceptique aurait sans doute raison, parce que je serais peut-être plus riche, parce qu'il y aurait moins de barrières à l'entrée. Mais déjà, c'est un domaine que j'ai envie d'explorer, donc je le fais presque autant par envie d'apprendre que par souci financier. Deux, normalement, à terme, quand ça sera pratique et qu'il y aura plus d'UX développé et tout, ça sera beaucoup plus simple de gérer plein de choses. Par exemple, aujourd'hui, tu fais une formation en ligne, c'est email et mot de passe, mais quelqu'un peut très bien donner son email et son mot de passe. Alors que demain, avec un NFT intransférable, ça sera plus sécurisé en contrôle d'accès. Donc, ça évitera qu'on copie tes produits digitaux, par exemple. Ça pourrait être une piste. Demain, si je veux reverser de l'argent dans l'autre sens, c'est-à-dire donner à celui qui m'a soutenu 5% des revenus publicitaires du board, mettons, quand ça deviendra the podcast le plus écouté de France, bah, grâce au NFT, je pourrais en un clic reverser de l'argent, alors que celui qui a payé sur Stripe, c'était unilatéral.
Ouais, laisse tomber.
Au revoir. Voilà. Et donc, d'ailleurs, je pense aux startups ou aux indés qui font des, tu sais, des kiss-kiss-bank-bank, des cagnottes et tout. Bah, si tu le fais version NFT, la personne est vraiment intéressée à ton succès parce qu'elle pourrait derrière revendre son NFT. Donc voilà, donc c'est un autre état d'esprit et ça va être de nouveaux business models. Mais bon, c'est vrai que c'est encore très, très innovant, donc on y va tranquille. C'est pour ça que souvent, la plupart des fois, même je fais des NFT gratuits, juste histoire de faire tester les gens pour qu'ils aient un wallet, qu'ils commencent à s'habituer.
Justement, restez au bout de l'épisode parce qu'on a peut-être un petit truc à vous proposer. Et justement, tu deviens associé de Tribune Indé, félicitations Flavie, bienvenue au board, petit board, hein. Je préfère te le dire, c'est un petit board, mais bah voilà, tu vois, on a un peu parlé de Web3. Moi, je m'y intéresse, mais je suis pas un grand expert, en tout cas sûrement pas autant que toi. Moi, j'y vois pas mal d'opportunités de business communautaire, j'y vois des opportunités pour Tribune Indé, mais c'est vrai que parfois on s'y perd un peu, on se demande un petit peu qu'est-ce qui a vraiment du potentiel, qu'est-ce qui peut être intéressant. Du coup, je serais curieux d'avoir un peu ton avis sur si tu étais à ma place ou en tout cas que tu étais associé sur Tribu Indé, est-ce qu'il y a des choses que tu testerais, que tu mettrais en place avec cette dimension potentiellement Web3, communautaire, voire NFT? Que tu mettrais en place si t'es à ma place. Est-ce que t'as besoin que je te refasse un petit récap rapide des assets Tribune
Indé? Moi, j'ai l'impression que je vois un petit peu, mais tu pourras compléter, parce ouais. que j'avais réfléchi déjà à ton cas. Alors déjà, je pense à ta communauté en premier lieu, parce que Moi, je t'écoute depuis longtemps. Je pense qu'il y a plein de freelances qui sont soit créatifs, soit support, soit tech dans ces sphères-là. Et premier truc qui me semble intéressant, c'est que pour eux, ça pourrait être des idées pour se reconvertir ou pour trouver leur future niche un peu vendeuse, quoi, des trucs où on va recruter des nouveaux talents. Je pense aux artistes, notamment aux designers. Moi, j'ai fait un autre podcast pour explorer les possibilités de travailler dans le Web3 quand, à l'époque où je me disais, et moi, qu'est-ce que je pourrais faire dans le Web3? Et ben, par exemple, designer 3D, ça a trop la cote pour designer les expériences dans le métaverse et tout. Et là où avant, en gros, ils étaient cantonnés à designer un paquet de chips pour une pub, ça va devenir super plus créatif comme mission, des formats plus longs et tout. Donc, je pense que c'est pas que tu as une responsabilité, tu fais ce que tu veux, mais presque quand on est dans le domaine du freelancing et créatif et tout, si on s'intéresse pas à cette nouvelle sphère d'expression, motion design, 3D, métaverse et tout, on rate un peu quelque chose. Donc, du coup, si tu as des créatifs dans ta bande, vous pourriez peut-être créer des NFT artistiques, les designer ensemble et co-designer. Et donc, l'avantage aussi que ce soit un NFT, c'est que chacun va mettre son numéro de wallet. Et si vous décidez de faire 50-50 ou si vous êtes trois artistes, faire 33% chacun, les fonds des ventes de ces œuvres d'art vont leur être reversés directement. Donc, ils ne vont pas faire des choses gratuitement, tu vois, ils vont pouvoir vivre aussi de leur art. Et ça, c'est un point clé du Web3. Donc, tu pourrais faire des pochettes collector pour ta nouvelle saison de podcast. Ouais, tu pourrais aussi en faire une sorte de galerie de tous les créatifs qui bossent dans le collectif. Et peut-être que du coup, des clients pourraient les découvrir par ce biais. Et toi, tu es un peu comme un galeriste. Du coup, tu récupères un peu de l'argent, mais surtout, tu les exposes. Donc voilà, ça pourrait être un matériau rigolo d'expression. Mais bon, voilà, il n'y a pas que ça. Il y a tout aussi les community managers, les marketeurs, tout ce qu'on peut faire dans ces sphères-là. En fait, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'on a plutôt des communautés ou des audiences? Avoir des communautés, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et je pense qu'une grosse partie des équipes marketing va être focus sur ça. Voilà. Donc, tout ce qui va être Web3, c'est intéressant pour gérer les communautés. Discord, les NFT, les différents nouveaux outils communautaires que tu peux utiliser. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle Crew 3 et tu peux décider de faire des quêtes comme des jeux vidéo où tu dis à tes fans de tribu indé, par exemple, suivez le podcast, laissez un commentaire sur Apple Podcast et puis, je sais pas, troisième truc, faites un post sur Insta ou une story. Et au bout de la quête, ils ont des points d'expérience et tu peux transformer ces points d'expérience en cadeaux. Donc, est-ce qu'ils auraient une réduction? Est-ce qu'ils reçoivent ton livre? Est-ce que juste il y
Sorte
a
de
un
gros
NFT
référent
Web3?
là.
Ouais. Donc, si tu, dans le gross marketing, c'est vrai que tu peux aussi utiliser ces outils Web3 à différents niveaux, de l'acquisition à la rétention, voire au revenu. Parce qu'on pense beaucoup aux NFT pour se générer des revenus, mais en réalité, c'est une petite partie du cycle. Autre truc que tu peux faire, par exemple, c'est créer des contenus dédiés pour ceux qui ont tes NFT. Donc là, c'est un peu comme un média payant. C'est-à-dire que tu vas dire, bah, achetez mon NFT Tribu Indé. Et pour ces membres-là, c'est ce qu'on appelle le gated content. Donc le contenu va s'afficher uniquement si tu affiches, enfin si tu connectes ton NFT. Et là, est-ce que tu vas leur faire des articles rien que pour eux, des lives rien que pour eux, des podcasts privés, des choses comme ça. Donc ça, c'est cool aussi, peut-être pour aller plus loin avec eux. D'ailleurs, j'ai aussi vu un outil comme une sorte de Calendly qui reconnaît tes NFT. Et si tu as certains NFT, tu auras de la place plus tôt pour prendre un rendez-vous dans ton agenda, Alexis. Donc, imaginons tes membres du bootcamp, ils pourraient avoir un NFT qui leur ouvre des sésames, quoi, des accès, des sortes de cavernes aussi avec différents contents. Et d'ailleurs, en allant même plus loin, encore plus loin, si tu vendais ton bootcamp au format NFT, peut-être qu'après, derrière, une fois que c'est fini, la personne peut revendre son NFT à quelqu'un d'autre et toi, à chaque fois, tu touches des royalties. Tu vois? Donc, à voir si on vend des trucs avec un usage unique ou si au contraire, on vend un peu des memberships et les gens peuvent les louer, peuvent les revendre. Et ça fait des business models de seconde main ou de troisième main. Donc, bon, c'est encore très récent. Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore de gros business là-dessus, mais voilà, ça peut
C'est
peut-être
intéressant.
inspirer des business models. Tu pourrais bien sûr faire reverser une partie des ventes. Parce qu'on sait bien que la preuve sociale, c'est important. Donc, les gens, ils sont fans de toi, ils vont te recommander bien volontiers. Mais si, en plus de te recommander bien volontiers, ils gagnaient un petit quelque chose sur les ventes du bootcamp ou la performance globale de Tribu Indé, je suis sûre qu'ils seraient contents et ça contribuerait à ta mission de rendre les freelances libres et indépendants financièrement. Donc, voilà, ça rentabilise leur investissement de départ. Donc, tu vois, ça, c'est le côté actionnariat. Est-ce que tu reverses une petite partie des fonds? Et grâce au NFT, tu peux contrôler aussi, avec un système d'expérience ou point, qui a quelle expérience. Et tu peux faire un peu comme un, comment dire, d'un point de vue gouvernance, tu pourrais dire, bah, ceux qui ont tel NFT, ils ont tel droit de vote. Et du coup, tu soumets certaines décisions de ton média au vote, un peu comme le comité média, mais amélioré. Et donc forcément, plus tu as de NFT, plus tu as de points, plus tu as contribué,
plus tu as de poids,
plus tu as de droit de vote, parce que tu as un peu plus de skin in the game. Voilà, donc ça a l'air abstrait, mais au final, c'est assez concret.
Et je pense que franchement,
utilisé pour des petits trucs.
Bon, j'espère qu'on n'en a pas perdu certains et certaines au passage, mais ouais, il y a pas mal d'idées qui sont hyper intéressantes à creuser. Est-ce que ça, d'un point de vue... Ouais, dis-moi.
Non, une petite dernière, je pense à ça, parce que bientôt, il y a le podcaston, je crois que c'est un peu ce principe, mais tu peux aussi vendre des NFT et dire que l'argent collecté, il va à une cause. Donc, il y a plein d'associations qui acceptent les crypto-dons. Donc, et ça ne transite même pas par toi. Il n'y a pas de risque de détournement de fonds. Ça va directement dans le wallet de l'association. Ou ça pourrait aller dans le wallet d'un artiste. Ou d'ailleurs, moi, j'avais réfléchi à ça pour le board. Il y a des freelances qui acceptent d'être payés en crypto. Et donc, du coup, moi, je n'ai même plus besoin de sortir des euros. Je gagne des cryptos en vendant mes NFT. Je les paye directement en crypto, mais ceux à qui je peux déléguer, par exemple, d'écrire des articles ou quoi. Et du coup, ça fait une petite économie circulaire qui est bien. Et si tu gagnes de l'argent grâce aux NFT, tu pourrais peut-être, du coup, redistribuer en faisant travailler certains freelances de ta communauté. Tu vois ? Voilà, donc c'est à plusieurs possibilités.
Oh, il y a des choses vachement intéressantes. Ouais. Tu pourrais même organiser des événements qui sont... liés à des détenteurs de X NFT, etc. Je pense qu'effectivement, il y a des choses intéressantes.
Et est-ce que t'as pas prévu un livre volume 2 à Freelance l'aventure dont vous êtes le héros ?
Tu te fais la porte-parole de des dizaines et des dizaines de mails que je reçois, c'est ça Flavie ? C'est toi qui es derrière... Non, je sais qu'on me le demande.
Bien.
Oui, je me dis que c'est bon signe. C'est-à-dire que le livre 1 a plu. Non, pour l'instant... c'est trop prématuré. Oui, j'en écrirai sûrement un autre dans ma vie, mais j'attends d'avoir cheminé un peu plus pour avoir des choses. Je suis plutôt quelqu'un qui préfère prendre la parole quand il a vraiment des choses à raconter, plutôt que de parler et de broder sur Internet. Il y a déjà suffisamment de gens qui le font déjà, donc pas pour l'instant, mais...
Eh ben, tu vois... Certains auteurs, artistes, compositeurs vont dire ben, « pour financer mon album, j'ai besoin de temps, donc en fait je vais vendre des NFT, je vais vendre les chansons en NFT, je vais vendre les pages en NFT, donc c'est un peu gamifié, c'est histoire d'eux, voilà. » Et derrière, ils auront été supporters de ton projet, ils veulent que le livre aille au bout, tu vois, parce qu'ils ont contribué, donc c'est un kiss-kiss-bang-bang, mais amélioré. Et si derrière tu leur dis « et puis quand ça se vendra bien, je vous reverse des royalties, voilà. »
Ouais, t'as une paire,
là, t'as fait coup double.
Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que j'avais vu ça sur des artistes, par exemple, où tu finançais l'album et selon ton niveau, tu pouvais soit avoir accès à des places VIP, t'avais accès à un backstage, t'avais, je sais pas, chaque année ou à chaque nouvelle tournée, t'as deux places offertes, etc. Et ouais, il y a potentiellement des choses. Est-ce que t'as des exemples, que ça soit aux US ou en France, de médias qui se développent avec des exemples que tu m'as donnés, tu vois
Ben le plus récent en France, c'était 20 minutes, je crois, 20 minutes. Donc, la verticale un peu crypto, Web3 de 20 minutes. Ils ont vendu 250 mécas, des petites machines à écrire. Et en fait, quand tu les achetais, donc ça leur a permis une bonne levée de fonds. Hein, du coup, je sais plus combien ça leur a permis de lever, mais de quoi, en gros, financer le journal. Et derrière, c'est si tu as la machine à écrire, tu peux proposer des articles à 20 minutes et être publié. Donc en fait, tu vois, c'est quand même super. C'est un peu un rêve, quoi, d'avoir un article publié dans un truc. Donc eux, ils y gagnent des co-rédacteurs, ils y gagnent des fans, ils gagnent de l'argent. Et en plus, ils permettent aux gens de s'exprimer, alors que peut-être c'était des gens plus invisibilisés dans les médias ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est un bon exemple. On en parle souvent avec cette équipe et ils ont une très bonne vision, tu vois, du truc, d'impliquer les gens dans l'aventure plutôt que d'en faire juste une aventure d'entreprise, quoi.
Ok, super intéressant, je vais la regarder. Je savais pas du tout qu'ils avaient lancé une branche un peu crypto de leur côté, quoi. Enfin, crypto NFT. Ok, écoute, ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on parle. Avant que je passe aux deux, trois dernières questions, tu m'as proposé, et je trouve que c'est une excellente idée puisqu'on parle Web3, NFT, etc. Tu m'as proposé que de co-créer un NFT complètement gratuit. Donc, vous n'avez pas de carte bleue à sortir. On ne sait pas encore s'il y aura des bonus, si ça vous donne accès à des nouveaux bonus une fois que vous avez acquis ce premier NFT de l'histoire de Trivia 1D. J'espère que ce ne sera pas le dernier, ça pourrait être intéressant. Donc à voir s'il y a des bonus derrière, en tout cas ils seront limités, je pense qu'on les limitera à 50. Et pour aller le minter, je mettrai toute la démarche en description. Et il y aura un mot de passe à mettre qui sera Trivia 1D. On est très très original, Tribu 1D tout attaché. Et il y aura, ouais voilà, je pense qu'il y aura, je sais pas ce que t'en penses Flavie, mais 50, on peut en mettre 50 dispo, on va voir, je serais curieux de savoir si on a une communauté qui est prêt à tester de nouvelles choses ou bien on est plutôt sur une communauté conservatisme.
Mais écoute, en plus, je vais mettre un petit mot quand même pour vous rassurer, si ça vous apparaît un peu abstrait. C'est très simple en fait. Quand on dit c'est des solutions en no-code, et vous allez voir d'un point de vue utilisateur, tu vas sur le site, ouais. Tu rentres le mot de passe, tu le récupères et ça va ouvrir ton wallet et tout ça tout seul. T'as pas besoin de crypto-monnaie. On peut même les payer en Apple Pay si tu veux en acheter. Enfin, vraiment, ça a été pensé pour rendre le truc accessible. Voilà, donc même si vous ne comprenez pas tous les tenants et aboutissants de la blockchain, c'est pas grave, on peut quand même vivre l'expérience de collecter un NFT, c'est assez rigolo, et de voir justement qu'est-ce que ça vous apporte, quoi.
Carrément, voilà, donc le mot de passe Tribu 1D, et puis je mettrai les liens. Effectivement, la plateforme est cool, et je trouve que pour des non-initiés, franchement, le job a été ultra bien fait pour simplifier tout ça, donc... Donc voilà, on va voir, je te dirai un petit peu ce que ça donne, bien évidemment, là-dessus, quoi. Bah écoute, je te propose de passer peut-être aux dernières questions du podcast.
Ça marche.
Peut-être la première question, si tu regardes là dans les 12 derniers mois, c'est quoi le meilleur investissement que t'aies fait ? La question est large, ça peut être une expérience, un objet, une formation, peu importe.
C'est une question super dure. J'ai pas trop dépensé parce que j'ai déjà beaucoup de formations. Moi, je fais partie des meufs qui... Enfin, j'ai Bac plus 5, plus des formations, plus imagine. À un moment, je me suis dit stop. En fait, il faut juste se lancer parce que c'est aussi un inconvénient, ça, de faire trop de formations. Et en fait, par l'action, tu apprends beaucoup. Non, moi, ce que je dirais, c'est d'avoir eu le courage d'investir mon temps dans le board, alors que ça me rapportait que dalle, que c'était bosser tous les week-ends, écrire des newsletters pour 30 personnes, enfin tout ce temps d'inertie au début horrible, pour qu'à la fin ça commence un peu à décoller. Et maintenant c'est un actif pour moi, mon média, quoi. Et vraiment je suis contente. Et donc quelque part j'investis quand même 4 jours par semaine à faire autre chose que mon travail rémunéré. Ça me rend, ça va, du coup je serai riche plus lentement, mais par contre j'espère que ça m'aidera à l'être plus durablement, on va dire.
Oh, mais c'est une bonne réponse. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y aurait un truc, tu vois, si t'avais la possibilité de changer un truc dans ton quotidien, ça peut être une orga, une habitude, du temps pour trouver quelque chose, ce serait quoi ?
En fait, je me suis rendu compte que j'aime bien travailler un peu tous les jours. Je pensais pas du tout. Je pensais que ce serait semaine de 4 jours, machin, que j'aurais un jour off pour aller surfer ou quoi. Pas du tout. Et bon, ça, je peux pas le changer parce que par contre, du coup, avec les enfants et tout, bah, au contraire, faut que j'apprenne à réfreindre ça et à me reprendre des vrais week-ends pour pas trop faire dépasser mon temps solopreneur sur ma famille, parce que comme c'est passionnant, j'ai envie de bosser tout le temps, mais voilà. Donc, je dirais encore perfectible, amélioration du temps.
Donc, c'est-à-dire continuer quand même de bosser tous les jours ?
Ouais, bosser tous les jours un petit peu, mais essayer de couper le week-end, donc mieux organiser justement mes newsletters, mes podcasts et tout pour pas que ça déborde le week-end, même si c'est vrai que c'est des moments off souvent où j'ai les idées qui viennent, la créativité, ça se contrôle pas trop.
Est-ce qu'il y a un contenu, ça peut être article, newsletter, podcast, t'as pas le droit de donner ton propre podcast, je préfère te prévenir, que toi, en tout cas, qui t'a aidé à cheminer, soit sur la partie freelance, soit à mieux te connaître personnellement, soit même sur la partie solopreneur, développement du média. Est-ce qu'il y a, ouais, il y a un truc qui t'a vraiment aidé ou qui t'a permis peut-être d'avoir un petit déclic, ou des nouvelles idées?
Les podcasts, ça c'est sûr. En gros, moi, je me suis rendu compte, j'ai un réflexe, c'est que dès que j'ai besoin d'apprendre quelque chose, je vais sur mon app de podcast et je tape le quelque chose en question et j'écoute. Et donc, c'est pas, je suis pas que fidèle à un podcast, j'en écoute plein. Et donc, typiquement, quand je me suis lancée dans le Web3, j'ai écouté des heures et des heures et des heures de podcasts Web3, DAO, machin. Donc, dès que j'ai un sujet, j'y vais. Et même dans le boulot, ça m'aide parce que j'écoute les concurrents du client pour qui je bosse, les interviews qu'ils font et tout pour comprendre les trucs. Donc, vraiment tous les podcasts. Après, je peux te citer Silicon Carnet parce que j'aime bien. Ça parle de tech, c'est rigolo. C'est un profil entrepreneur, dirigeant. Et voilà, ça me connecte bien à l'actualité aussi du monde des startups ou des scale-up qui sont quand même parmi mes clients cibles. Là, typiquement, en ce moment, ça parle de récession, de la panique, la banqueroute des banques et tout. Et c'est bon à savoir quand tu es freelance parce que si tu débarques comme une fleur, genre, bah, alors les gars, vous embauchez plus de freelance. Voilà, donc ça m'aide à bien connaître mes personas aussi.
Et en plus, le nom est très sympa, donc
C'est
effectivement.
clair.
Dernière question, qui est un classique, indémodable du podcast. Si tu avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier, qu'est-ce que tu écrirais ou dessinerais dessus?
Apprendre tous les jours.
Ça me va. Très
C'est pas de la pub pour moi, par contre, hein. C'est un peu con. Ouais. Je pourrais profiter de cette occasion pour
bien.
faire de la pub pour moi.
C'est toujours marrant, on a toujours, y a toujours les deux. Y a les opportunistes, c'est gentil, c'est pas méchant, mais qui se disent, bah attends, j'ai un panneau publicitaire gratuit visible par le monde entier, let's go, on y va. Tu fais partie de la deuxième catégorie, avec quand même le petit rattrapage de, quand même, ce serait dommage de pas mettre un petit lien vers le board, par exemple, quoi.
Non, mais en fait, ça a un lien parce que si tu vois, c'est, je pense, les gens qui aiment bien ce que je fais, ils aiment bien se remettre en question, apprendre et tout. Et moi, je trouve que je me rappelle des podcasts de Tribu Indé que j'avais écoutés au tout début. Tu disais, freelancer, c'est une façon d'apprendre en étant payé. Et c'est peut-être pour ça que j'aime autant le freelancing. Et j'aimais bien le salariat aussi, parce que pareil, bah, tu es payé, tu apprends. Et pour moi, c'est une continuité. Donc, apprendre tous les jours. Et du coup, bah, quand tu apprends et que tu es prêt à te remettre en question, tu bosses aussi avec des super freelances pour remettre en question tes process et tout.
Bon, en tout cas, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Flavie. Je mettrai tous les liens à l'écouter le podcast de Flavie parce qu'il est vraiment très très cool. Il s'appelle Le Board. Je mettrai aussi le lien vers le site où il y a pas mal de contenu très intéressant aussi. Merci beaucoup. C'était un plaisir. J'espère que j'ai pas été trop rouillé sur cette nouvelle interview. N'hésitez pas à envoyer un petit message à Flavie si l'épisode vous a plu. Si vous voulez lui poser d'autres questions aussi, on n'a pas pu aborder tous les sujets. J'ai d'autres sujets en réserve. On s'en reparlera prochainement, j'en suis sûr, Flavie. Merci à vous, merci à toi, Flavie, et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Tribu Indé. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, vous pouvez récupérer le premier NFT 100% gratuit de Tribu Indé. Attention, ils sont limités. Si l'épisode vous a plu, envoyez-le à un freelance ou un solopreneur. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast pour convaincre de nouveaux invités de venir échanger sur Tribu Indé. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Je vous remercie d'avance pour votre soutien et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!